Bonsoir, merci à tous d'être venus pour cette première soirée Premium TV que nous reprenons après un arrêt un petit peu prolongé du festival. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et de relancer cette soirée qui est la première, mais nous l'espérons bien pas la dernière. Donc cette soirée Entertainment Geekly qui revient sur le phénomène de l'invasion des séries télé en France. L'idée, on s'aperçoit quand on regarde comment l'objet série télé a évolué, qu'on est passé d'un loisir réservé d'un certain point de vue à des adolescents boutonneux. Maintenant que tout le monde regarde des séries télévisées et que c'est devenu un vrai phénomène de mode, nous allons nous interroger sur pourquoi et comment nous sommes passés de l'un à l'autre. Cette soirée est en partenariat avec France Culture, qui présentera cet été du 22 juillet au 22 août, donc un mois complet, une série d'émissions sur l'histoire des séries télévisées américaines. Cette émission est faite par Benoît Lagan et Eric Vera, qui sont présents ici et qui sont les modérateurs de ce débat. Nous les remercions pour leur présence, nous remercions aussi nos invités et je laisse la parole à Benoît et Eric pour la présentation du débat. À la fin du débat, vous pourrez poser des questions, donc notez si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup.
Bonsoir, merci d'être venu. Écoutez, nous on est très contents que les premiums recommencent, parce que effectivement c'est un retour. On ne fait pas du tout partie de cette organisation, mais on trouve ça vraiment, une initiative vraiment très sympa. On peut peut-être, avant de vous présenter nos invités, rapidement vous dire que, enfin nous, cette histoire de l'Amérique à travers ces séries télé qu'on va faire cet été, on l'a fait vraiment avec une grande joie, parce qu'on est tous les deux. On est trentenaire, on va vous donner notre âge précis, mais on est trentenaire et c'est vrai qu'on baigne dans cette culture série depuis un moment. Moi personnellement, je suis journaliste depuis une dizaine d'années dans ce monde des séries.
Mais toi, tu es un peu plus geek, je crois.
Je suis un peu plus vieux aussi.
Ouais, c'est vrai.
Dans le monde des séries, et c'est vrai que peu à peu, année après année, il y a cette montée en puissance dont a parlé Séverine Barthes, même si pour moi, et Alain, je pense, ne contredira pas, le phénomène des séries, il est là depuis très très longtemps. Mais bon, on est là pour en parler, donc on va voir ça. Journaliste dans ce monde des séries, et puis vraiment très heureux de faire cette série d'émissions. Mais c'est vrai qu'on a eu besoin de gens qui nous ont apporté leur éclairage. Alors, on aura par exemple, on retrouvera Barbara Villès dans notre série d'émissions. Et c'est vrai que c'était important d'avoir le ressenti, pas forcément que des gens de télévision, mais aussi des gens qui sont de la société civile. Barbara, vous êtes enseignante à l'ENM notamment, vous êtes universitaire, et on y reviendra. Mais c'était vraiment intéressant. Et on s'est aperçu que les séries, c'était pas simplement un petit monde. Qui se regarde lui-même, mais c'était vraiment un domaine qui pouvait intéresser énormément d'autres univers. Donc on espère pouvoir aussi en parler un petit peu ce soir.
Donc ce soir, grâce à Premium, on a eu l'idée avec eux de réunir différentes personnalités ayant chacun des choses à dire avec des casquettes différentes. Alors ici, pas question de parler uniquement des séries américaines. Nous, cet été, on parle de ça, mais c'est pas le but ce soir. C'est vraiment de parler un petit peu de la fabrication, de la perception qui a évolué des séries en général, qu'elles soient américaines ou françaises. C'est pour ça que donc Barbara Villez, qui vous pouvez vous présenter à quelques mots, vous êtes franco-américaine, spécialiste du droit, mais fan de séries aussi.
Oui, je travaille sur la représentation de la justice à travers les séries judiciaires à la télévision américaine et la télévision française. Oui.
Alors, Alain Carazé, qu'on ne présente plus, mais vous pouvez peut-être le faire en quelques mots. Non, mais on vous lit, on vous écoute, voilà. On vous doit tous beaucoup, hein, je pense, ici. Quand même.
Enfin,
si à France Culture, on a eu le culot d'aller voir le directeur pour lui proposer une émission sur les séries américaines,
parce
ce qui n'était pas gagné.
Parce que je fais une chose sur Europe 1, c'est
ça? Non, parce qu'on va faire différemment, pour ne pas se concurrencer. mais c'est parce que vous avez initié quand même un petit peu tout ça. La culture série, c'est un peu vous
les séries ne m'ont pas attendu tout de même. Hein.
Oui.
Écoutez, fait, qu'est-ce que je vous dis, journaliste, spécialiste série, directeur d'une société qui s'appelle 8R City et qui a pour but de fournir du contenu de la rédaction sur de nombreux supports, sur ce qui est série télé, parce qu'une seule personne ne suffit pas et que c'est bien d'avoir un pool d'auteurs et de créatifs. Justement, ils sont spécialisés là-dedans, chroniqueurs, émissions de télé, Europe 1 on l'a cité, télé deux semaines aussi pour les magazines télé. Vous nous retrouvez notre travail sur le site web de Canal+, dans lequel on parle de toutes les séries, pas uniquement des séries de Canal+, avec un vidéoglobe, avec des reportages, etc., etc. Et bientôt, conseiller expert auprès d'une grosse société de consulting média.
Parfait. On attend avec impatience. Et puis, donc, on voulait faire, certes, avoir deux critiques. Donc, Barbara et Alain vont pouvoir avoir ce regard un petit peu de critique, à la fois historique sur les séries américaines et françaises. Et puis, on voulait des professionnels, et des professionnels, ceux qui fabriquent les séries en France. Alors, on a invité Olivier Cohn, qui est l'auteur d'une des bonnes surprises des rentrées télé il y a un an, c'est ça. Donc vous avez fabriqué Reporter. Vous pouvez un peu nous dire comment vous êtes arrivé à Reporter?
Comment je suis arrivé à Reporter? J'ai simplement, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la télé à différents postes, en commençant comme lecteur de scénario, en passant par M6 chargé de programme et en travaillant comme directeur littéraire dans une maison de production qui s'appelle Kappa Drama. Et là-bas, j'ai travaillé notamment sur Police District avec Hugues Pagan et H Sensible, une série qui est passée sur France 2, enfin en partie sur France 2. Et voilà, et à un moment donné, il y a eu une bascule qui s'est faite en 2004, et je suis passé de l'autre côté, et donc j'ai commencé à écrire une série qui est Reporter. Et j'ai pas écrit tout ça, hein, je précise, mais enfin bon. Voilà, donc effectivement, j'étais à l'origine de Reporter, dont la deuxième saison va se tourner d'ici 2 mois. Voilà.
Et donc également Jean-Pierre Ducéo. Donc alors vous avez une grande carrière à la production télé, mais vous êtes aussi universitaire. Vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont vos spécialités d'universitaire et de producteur?
En tant que producteur, je produis de la fiction de tout genre, enfin, du 90 minutes et de la série. Donc récemment La Main Blanche, qui est passée sur TF1, donc qui était une série de 4 épisodes. En 90 minutes, Louis la Brocante, Les Hommes de cœur. Et en 52 minutes, SOS 18, ça repasse samedi sur France 3, mais également Brigade Navarro, donc, qui est là justement un passage de Navarro en 90 minutes, en 52 minutes, et puis bien sûr les grands feuilletons, Terre Indigo, hein, donc à l'époque c'était en 90 minutes. Alors après on peut discuter, mais Alain est plus fort que moi, pourquoi on est passé du 90 au 52, pour des raisons techniques objectivement, et puis par un poids à un moment donné d'un récit. T'es obligé de suivre une mode, sinon ça, le 90 minutes fonctionnait très bien, avec quelques passages on pourra parler qui ne fonctionnent pas, même si Julie Lescaut marche bien dans le passage, enfin, donc, on est dans une mutation. Alors si, point historique, je rappelle qu'en fait on vit aujourd'hui l'époque qu'a connue la télévision avec l'arrivée de Dallas, parce qu'on oublie que Dallas a été présenté à 20h30, hein, c'était quand même 21h30. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, la télévision française a changé. C'est-à-dire que d'une télévision qui s'appuyait surtout sur le patrimoine littéraire de la France, hein, même si elle y revient avec les mots passants, bah, on a inventé des personnages récurrents, et on le doit à De Givray sur TF1, donc, qui a inventé Navarro, Julie Lescaut. Enfin, c'est la grande époque où en fait on a fait une fiction française très importante. Alors évidemment, beaucoup d'années plus tard, près de 20 ans après, forcément les séries sont fatiguées et les héros sont fatigués. Je rappelle que Roger Hanna va quitter le commissariat à la fin des épisodes de Brigade Navarro, il aura quand même 84 ans, donc il contredit, enfin il creuse pas d'ailleurs le trou de la sécu, enfin toutes les statistiques. Quant à Pierre Mondy, il va fêter ses 85 ans en juillet, il est toujours cordier flic, hein. Donc effectivement, de toute façon, nous aurions été amenés mécaniquement à changer. Et je dois dire que nous, les producteurs, nous nous réjouissons de l'arrivée des fictions américaines excellentes qui nous ont obligés à regarder, enfin à nous bouger un peu les les uns et les autres. Et effectivement, à vivre dans un domaine concurrentiel, moi, je veux dire, vous ne pouvez pas. Ce qui est la force de la télévision, c'est que c'est la même image. Enfin, vous êtes devant votre poste, vous pouvez faire diffuser 200 images, c'est le même poste et vous êtes le même spectateur. Et il n'est pas concevable que les images ne soient pas de même qualité, et tant mieux. Et nous avons été boostés par Lost, par Prison Break, et je crois que. Je pense que tout le monde va être surpris par la qualité de la fiction française qui, évidemment, est tout à fait apte à réagir.
Et alors, le lien entre le monde universitaire et le monde de la télévision, vu que vous avez les deux casquettes?
D'abord, c'est le plaisir d'avoir des tas d'étudiants qui sont des consommateurs de télévision et qui, évidemment, nous remettent en cause. Je veux dire que quand je démarrais mes cours, à l'époque, je produisais surtout des émissions de flux. J'étais l'heureux producteur de La Classe et de Tournée Manège. Je faisais un tabac la première fois que je disais ça à mes étudiants. Et bon, puis petit à petit, ça s'arrangeait. Et c'est assez formidable. Alors depuis, évidemment, je les connais. J'ai le bonheur d'être invité dans un colloque, vous voyez, comme quoi, par Séverine, qui était une de mes étudiantes. Et non, l'intérêt d'être professeur, et vous l'êtes, vous vraiment, moi je suis un amateur, c'est de devoir formuler les choses. Et formuler, c'est formidable. C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même une explication à tout ça. Et de devoir la fabriquer pour pouvoir la transmettre, ça c'est un gain énorme en tant que producteur et j'en suis très heureux.
Alors on peut quand même rentrer dans le vif du sujet avec les séries. Vous avez tous des parcours très différents. On aimerait savoir justement quel a été le premier contact avec une série, aussi bien enfin, dans le monde français ou dans un monde étranger, et ce qui vous a fait continuer à travailler auprès de ces séries. Barbara?
Moi, je suis élevée avec les séries. Je suis américaine d'origine. J'ai regardé la télévision à 5 ans. Il y a des personnages avec qui j'ai évolué, que j'ai vu évoluer, et donc ça serait difficile de dire. Bon, il y avait des séries pour enfants, il y avait des séries. La première judiciaire, c'est Perry Mason, mais je vous ai déjà dit, moi j'ai découvert le droit à côté de Perry Mason.
Vous aviez une jolie formule. Vous disiez qu'au début, vous vouliez vous marier avec lui.
Oui, et
puis
ensuite,
après...
je voulais le remplacer. Oui.
Parce qu'il gagnait toujours.
Il gagnait toujours, et puis j'étais la génération où les filles pouvaient enfin aller à la fac de droit. Donc, quand c'était mon tour, je me suis dit, ben, en fait, ouais. J'ai plus besoin de lui.
Je ne sais plus combien de temps dure la série, mais 5-6 ans.
Oui, alors c'était 7 ans, je crois, la première série.
Ouais, ouais. Et il gagne tous ses procès, les épisodes, sauf un, je crois. Et parce qu'il laisse l'autre gagner un peu exprès.
C'était un téléfilm à ce moment-là, c'était plus complexe.
Vous voyez, l'avocat qui gagne tous ses procès, le rêve.
C'était le schéma, et c'est pour ça que ça fonctionnait aussi bien, pour que les Américains apprennent leur système judiciaire. Tout était à la même place, tout était... Il y avait vraiment un schéma d'histoire.
Vous avez une théorie assez intéressante, peut-être on y reviendra peut-être après, sur le principe d'éducation qu'ont les fictions américaines, mais on y reviendra. Alain, tu peux continuer peut-être?
Voyons. Moi, mon premier contact avec les séries télé, c'était parce que je ne pouvais pas aller au cinéma. Moi, j'étais fanat de, je suis toujours, de science-fiction, de fantastique, etc., etc. Et dans les années 60, pour aller voir des films au cinéma de ce genre-là, c'était pas encore Star Wars, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc des petites salles de cinéma extrêmement mal famées dans les quartiers. Mes parents ne m'autorisaient surtout pas à aller. Pas question. Et puis, généralement, c'est des films avec des vierges effarouchées qui étaient poursuivies par des vampires. No way. Donc, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait rien. Donc, j'étais un peu, j'étais un peu en manque. Et je commence à regarder la télévision et je vois, tiens, j'ai pris une boîte de cuir. C'est un peu bizarre, c'est un peu surprenant, étrange. Tiens. Et puis en 68, je tombe sur Le Prisonnier. Je ne vais pas vous dire que j'ai tout compris. Je ne vais pas prétendre d'avoir tout compris au début, mais j'ai senti qu'il y avait un truc particulier. J'ai senti qu'il y avait un truc derrière. En plus de l'élément un peu SF, science-fiction, le village à grosses boules, les éléments, les décors, le côté futuriste, etc., qui m'avait totalement accroché, j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Et j'ai continué à être extrêmement curieux de tout ce qui se faisait à la télé, autant qu'au cinéma, autant que dans les bandes dessinées. Je ne comprenais pas. Et je comprends toujours pas qu'il y avait encore à l'époque le côté le cinéma c'est bien, la télé c'est pas bien. J'ai jamais compris, et j'ai toujours, pendant plusieurs années, joué un peu mon Don Quichotte en disant mais si, la télé c'est bien, les bandes dessinées c'est vachement bien, etc. Jusqu'au moment où on m'a laissé l'occasion de le dire de façon un peu plus véhémente. Et puis maintenant, j'ai plus trop besoin de le dire parce que tout le monde est d'accord. Voilà.
Par exemple, quand vous travailliez à temps X, le monde intellectuel et les journalistes voyaient les séries comment ?
Aujourd'hui, ils les voyaient pas. Déjà, de toute façon, la réponse était simple, ils les voyaient pas. Déjà, c'était évident, ils les voyaient pas. Il n'y a pas question de regarder un feuilleton, les séries télé ou quoi que ce soit. Et nous, à temps X, moi j'étais chargé de tout ce qui était cinéma, etc. Mais pendant l'été ou quand il fallait changer un peu les choses, quand il s'agissait de mettre quelque chose, si on mettait une série, c'était pour compenser un budget qui faisait qu'on ne pouvait pas faire une émission sur deux. Quoi. Voilà, c'était aussi bête que ça. Sauf que plutôt que de passer... je dis n'importe quoi, Walker, Texas Ranger, ça n'existait pas à l'époque, mais enfin, vous voyez le genre. Moi, j'essayais de passer Le Prisonnier, j'ai fait acheter La Twilight Zone, qui était inédite en France, sauf une dizaine d'épisodes, et miracle, ça a marché. Miracle, on s'est rendu compte, peut-être, mais ça, on y reviendra peut-être après, que le spectateur n'est pas si stupide que beaucoup de responsables de chaîne voudraient bien le croire.
Olivier Cohn, vous avez été critique cinéma. Donc il n'y a pas eu de coupure de toute façon entre le cinéma et la télévision. La télévision, si. Elle est arrivée comment?
Si, justement. Ah. C'est pour ça que c'est une expérience très différente de celle d'Alain, je crois. Parce qu'en repensant à quand vous posez cette question-là, je me rends compte qu'il y a en fait deux phases. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, il y a la phase enfance-adolescence, où je suis devant la télé, je regarde Les Mystères de l'Ouest, Star Trek, Cosmos 1980, enfin voilà, toutes ces séries-là, Le Prisonnier aussi d'ailleurs, Chapeau Melon, absolument. Et c'est associé pour moi à l'enfance, c'est-à-dire à une espèce de plaisir comme ça, qui sans arrière-pensée, sans réflexion, sans. Voilà. Ensuite il y a l'adolescence, et là l'adolescence c'est plutôt le cinéma, c'est-à-dire, je regarde les cinémas de minuit, les ciné-clubs à la télé, j'habite en province donc je vais au cinéma, mais il n'y a pas tant de films que ça, donc je m'attrape à la télé, et là il y a un abandon complet pour la télé. Je suis incapable de vous dire ce qui passait ou presque à la télévision dans ces années-là, c'est-à-dire à peu près entre, je dirais, un peu avant mon bac, entre 86 et 96, il y a une dizaine d'années comme ça qui sont. Et où j'ai d'assez mauvais souvenirs d'ailleurs, je le dis un peu brutalement, mais de séries françaises que je voyais à l'époque. Il y en a une qui m'est restée, parce qu'à l'époque je découvrais moi le cinéma et certains films qui me paraissaient évidemment à 15 ans des chefs-d'œuvre, des choses très. Et à côté j'avais Château Vallon le samedi ouais. Soir sur
le vendredi. C'était pas samedi.
Juste non, avant l'apostrophe.
C'était sur France 2 avant l'apostrophe. Et...
Ah, je croyais que c'était après oui 52, d'accord, c'était déjà du 52 d'ailleurs, donc voilà, donc c'est pas un traumatisme, mais enfin c'est quand même
c'est quand même un traumatisme, je confirme,
s'il y a un défenseur de Château Vallon dans la salle, vous le ferez signe tout à l'heure,
mais par contre je fais une petite parenthèse parce que je sais pas si vous, je me souvenais vaguement d'une série que j'avais vue sur France 2, enfin sur Antenne 2 à l'époque. J'ai retrouvé ça cette réunion avant de venir. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc quand même. J'ai essayé de, par recoupement, tel acteur qui. Il y avait un. Est passé pendant 4 semaines en 81, donc j'avais 12 ou 13 ans, une série qui s'appelait Noirs sont les galaxies. Ça vous dit quelque chose? C'est un truc incroyable avec des acteurs français.
C'est une tentative française de série de science-fiction qui était. Comment peut-on dire ça gentiment? Étrange.
Mais complètement étrange. C'est-à-dire qu'il y avait des personnages qui mouraient avec un arbre qui leur poussait dans le ventre. C'est-à-dire qu'on les retrouvait comme ça. Voilà. Non, il y a eu
bien qui était tout aussi. Oui, c'est.
Mais voilà. Donc c'est pour dire que voilà, il y a quelques morceaux qui me restent. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vite parce que voilà. Il y a cette parenthèse qui est le moment où je pars faire des études. J'ai pas de télévision. Là où je voilà. Et donc il y a 10 ans où je ne suis pas à la télé, où je suis de toute façon à 100% cinéma. Je fais de la critique de cinéma, je vais sans arrêt voir des films, et quand je tombe en général sur des choses à la télévision, je suis pas très intéressé. Je sais plus quoi, je sais pas. Voilà, je suis pas très intéressé. Je parle pas de américain ou français. Enfin, bon, j'ai pas vraiment de souvenirs là-dessus. Par contre, pour des raisons matérielles, commencer à travailler, la première occasion qui s'est présentée, c'était lecteur de scénario pour M6. Donc j'ai quand même été embauché par M6 pour être lecteur de scénario de Highlander à l'époque, alors que je n'avais pas de télé. et que j'ai évidemment j'ai menti.
Si ça peut te rassurer, je connais plein de journalistes qui font des critiques de séries sans jamais les avoir vues.
C'est,
là,
ça, c'est... Ça, c'est encore autre chose. Bon, enfin, voilà. Pour finir le parce que ça c'est quand même et je pense que là j'ai l'impression que ce qui se passe là de ce qu'on essaye de dire. Enfin, de ce phénomène dont on parle, moi j'ai l'impression d'avoir vécu vraiment parce que j'étais à M6 en 80, donc ça, on parlait de ça à l'instant en 95, pour m'occuper d'une série qui s'appelait Studio Sud, qui a vu les débuts de Thomas Sisley. Et on discutait dans la chaîne, il y avait le service des acquisitions qui revenait des screenings de Los Angeles et qui nous tenait au courant, etc. Qui nous disait, tiens, on vous passe une cassette, là, il y a un truc incroyable qui sort avec des médecins, etc. Bon, moi, et c'était urgent, c'était IA d'ailleurs, c'était pas, on n'avait pas de titre français à l'époque. Et effectivement, là, au moment où j'ai travaillé à M6 pendant cette petite année-là, pour moi, c'était travailler sur des scénarios de sitcom, mais comme j'aurais travaillé sur des scénarios de cinéma, c'est-à-dire c'était raconter une histoire, je voyais pas vraiment de différence, mais. Je m'y intéressais pas non plus tant que ça. Je veux dire, le projet sur lequel je travaillais, oui, mais je ne regardais pas tout ce qu'il y avait autour non plus. Et puis à ce moment, et puis là, j'ai commencé à voir cette cassette d'urgence. Il y avait X-Files qui commençait à l'époque aussi.
C'était exactement pendant 2 ans, il y a eu Friends, Urgence, voilà. X-Files en même temps.
Friends, exactement.
Et NYPD voilà. Blue aussi.
Et NYPD Blue
et Homicide aussi. Donc ça a été 2 ans dans lesquels c'était voilà, un peu.
C'est ça, exactement. Et à titre personnel, il y en a une autre qui a beaucoup compté. Qui était Murder One, qui est passé sur Jimmy, je crois.
Sur M6.
Sur M6, oui,
c'est ça. D'abord, c'est avec le bon.
Voilà, c'est ça. Et alors là, il y a eu un choc, c'est-à-dire que j'ai été, je sais pas comment dire ça, je m'intéressais sincèrement, complètement, aux séries, sans avoir plus aucune, faut bien le dire, plus aucun mépris, parce que c'est un peu ce que j'avais pendant ces 10 ans ou ces 15 ans qui ont précédé. Alors je sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est les séries ou si c'est un peu des deux, je pense que c'est peut-être de ce côté-là que ça se joue, mais en tout cas cette montée-là dont on parle, j'ai l'impression d'avoir vécu, enfin que ça correspond exactement à mon changement et mon évolution là. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long, je vous laisse la parole.
Alors Jean-Pierre
qui n'a pas du tout la même expérience, je pense.
Non, moi je suis de la génération Sarkozy. Donc,
Thierry Lafronde alors.
Oui. Ah, bah, non, en réalité, j'ai eu deux grandes joies, c'est Ivanhoé avec Roger Moore. Ça, je dois dire que c'est un grand souvenir. Et je l'ai proposé d'ailleurs à France 2 récemment, ils l'ont refusé, ils ont eu tort. Je vais écrire à Sarkozy. Ainsi que Rintintin et Max la Menace. Mais en réalité, la série pour en réalité, la série était la suite de ce qu'on lisait, parce que moi je lisais Bob Moran. Enfin, je veux dire, on lisait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série pour moi? Enfin, c'est de retrouver les héros, quoi. Enfin, les mêmes, quoi. Enfin, de les retrouver. Alors, après, la narration, évidemment, elle était naïve dans certains cas, mais enfin, c'est le plaisir de retrouver. Et pour moi, je trouve que c'est fondamentalement un plaisir de télévision. C'est-à-dire ce plaisir qu'on a de retrouver, si possible, à un jour fixe. Hein, parce que je déteste personnellement, j'étais directeur des programmes, donc je suis assez attaché. D'ailleurs, M6 était au début, puisqu'il disait le mardi c'est permis, vendredi polar. Enfin, je sais pas, de retrouver tel soir. Avec plaisir, avec délectation, comme on a plaisir à retrouver un livre, comme on peut avoir plaisir à retrouver à la recherche du temps perdu si on met plusieurs semaines à le lire. Hein. Vraiment, c'est fondamentalement le plaisir. C'est la raison pour laquelle, forcément, on va créer l'empathie, la haine. Je veux dire, on déteste T-Bag, enfin, mais on est content de voir jusqu'où il va aller. Enfin, je veux dire, c'est construit. Prison Break est construit réellement, ils sont 12, donc quand même avec un salaud, ça a donné des idées. Il y a 2000 ans, ils l'avaient déjà fait. Hein. Donc ça veut dire pour moi ça. Et c'est réellement télévisuel. Et effectivement, il n'est pas surprenant que ça fonctionne, puisque compte tenu du fait qu'on nous explique qu'on va être de plus en plus chez nous, on va pouvoir regarder partout, forcément, on va avoir envie de se retrouver entre amis. Et finalement, les gens des séries sont nos amis. Moi, que ça menace, je l'adorais. J'ai l'impression que je le connaissais. Si j'avais croisé dans la rue, j'aurais serré la main. Hein, donc, moi, voilà. Après toutes les séries, malheureusement, j'ai dû me fader Château-Vallon. J'y ai pas participé, mais enfin j'ai failli. Non, non, j'ai failli faire la suite. J'ai failli faire la suite. On m'a demandé de produire la suite. Et alors on a été sauvé par le gong, mais c'est un gong affreux d'ailleurs.
L'accident de voiture.
Mais c'était parti. Non, non, je vous rassure, c'était tout à fait parti. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est irregardable. Ça n'a jamais été refusé. Pas tellement pour des raisons de dramaturgie, mais parce que les costumes, enfin, c'est un choc. Quoi. Et puis les cheveux, enfin, ils avaient tous les oreilles cachées. Enfin, c'était assez affreux. Alors quant au boutonneux dont parlait tout à l'heure Séverine, je rappelle que c'est quand même une catégorie. Hein. C'est la catégorie fiction AB, le miel et les abeilles, Hélène et les garçons. Hein. Non. Donc c'est une catégorie particulière, particulièrement irregardable. Je vous signale d'ailleurs, parce que j'en suis l'administrateur de IDF1 sur le canal 27. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Hein, mais genre, ce n'est pas à confondre avec les séries américaines, parce que c'est un autre genre. Non.
Les séries
du coup. Par contre, notre ami qui a travaillé et qui a lu, parce qu'on lui doit donc un peu, ça s'appelait Studio, avait à voir malheureusement avec les séries d'Hélène et Garçon, en moins bien encore. Hein, parce que. Voilà.
C'est oui. Trop dur.
Bah, ça. Bah, de toute façon, ça n'a pas marché du tout. Autant Classe Mannequin a marché.
Parce que c'était mieux.
Non, c'est totalement faux. Voilà.
On va peut-être parler de ça, justement. Oui.
Juste une question à Barbara Villers, parce qu'on entend Alain, Olivier et Jean-Pierre parler de leur expérience en France. Alors, aux États-Unis, Olivier expliquait qu'en gros, en 1995, il y a un changement qui s'opère en France. Aux États-Unis, est-ce qu'on perçoit la même chose ou pas du tout? Parce que nous, on a l'impression, quand on suit les séries, que les séries américaines, il y en a toujours eu des bonnes et puis des moins bonnes, et qu'il y a eu certes une évolution, mais ça, c'est comme partout. Est-ce que la perception, elle, a évolué aux États-Unis aussi ou pas?
Si, parce que maintenant, vous avez la quality American television. Hein, et donc, tout le monde est d'accord que l'écriture... Le style d'écriture n'a rien à voir avec les séries d'avant. Mais il y a toujours eu des moments chocs. Il y avait All in the Family. Alors, je ne sais pas si vous l'avez eu ici.
Non.
C'est... Ah, il était important. Il était très, très important parce qu'à travers un idiot, il y avait beaucoup d'idiots qui se sont vus et qui se sont posés des questions. Et ça a marqué des changements dans les attitudes... d'un certain secteur du public américain.
Ouais, All in the Family, pour vous situer les choses, c'est la première sitcom, on va dire, un peu sociale. Un personnage, Archie Bunker, qui est raciste, homophobe, idiot, méchant, enfin, tout ce que vous voulez, avec sa femme et avec. Qui accepte tout. Et quelque part, en effet, et c'était en plus une sitcom qui était un peu en prise avec la politique du moment ou avec les événements du moment, si
et
je ne me trompe.
Richard Nixon, le pilote, il se moque de Richard Nixon.
Il se moque de Richard Nixon dans le pilote, etc. Donc, un personnage très excessif, mais aussi c'était très réaliste. C'était la première sitcom dans laquelle on s'est permis un jour d'entendre quelqu'un sortir des toilettes et tirer la chasse d'eau. Ben oui, c'est bon. C'est la première sitcom.
Il y avait un gendre et une fille qui étaient des hippies.
Tout à fait. Et ça a changé la face de la sitcom aux États-Unis. Par contre, en France, à la même époque, les sitcoms, parce que c'était trop américain, parce que c'était intraduisible, parce que c'était vraiment trop pris dans la culture américaine, n'ont pas franchi le pas. On n'en a vu aucune. Il y en a eu des dizaines et dizaines à l'époque. On n'en a eu quasiment aucune, hormis MASH et hormis bien plus tard le Cosby Show. Mais là, c'était dans les années 90.
Pour vous faire une idée, une page de pub, comme dans les bonnes séries américaines, sur France Culture, on a un épisode entier consacré à All in the Family, Mary Tyler Moore Show. C'est notre épisode 14. Voilà, ça, c'était la page de pub.
Les femmes professionnelles qui ont dû lutter à une époque et qui ne luttaient plus après. Il y avait Murphy Brown, qui a décidé d'élever un enfant seul. Enfin, c'était des choses importantes pour la télévision. Donc ça marquait une période et ça permettait de rendre banal des choses dont on ne parlait pas. Mais bon, c'est vrai que maintenant il y a Quality American Television, donc c'est complètement autre chose. On est dans une époque littéraire.
Oui, sauf qu'à l'époque de Château-Vallon, aux États-Unis, on a MTM qui va produire des tas de séries quand même très, très, très originales. Donc on est quand même dans une histoire de la télévision qui, depuis quasi toujours, a produit des choses intéressantes, quoi.
Oui, ben ça, c'est souvent, d'après ce qu'on dit, c'est souvent une question de concurrence entre les chaînes. C'est-à-dire les trois chaînes hertziennes principales, ABC, NBC et CBS, lorsqu'il y a une des trois qui se trouve vraiment très mal en bas de la, de l'échelle. Prend des risques. Et alors c'est là où les séries se lancent avec une nouvelle idée.
C'est comme ça qu'NBC va produire *East Street Blues*, par exemple.
Exact.
Voilà. Plus tard, NBC.
C'est exactement pareil en France. Hein. Mmh. *Police District* et *H Sensible* ont pu être faits parce que M6 à l'époque et France 2 un peu plus tard étaient dans une phase où ils avaient besoin de contre-programmer. Ce qui ne veut pas dire que ça a marché. Hein. C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, si ça a été possible, dans les deux cas, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est parce qu'il y avait une recherche.
Mais c'était toujours le cas en France.
Mais ça va être le cas aujourd'hui.
Maintenant, clairement, c'est le cas parce qu'il n'y a plus le choix.
Clairement, alors c'est vrai que c'est plus vrai sur TF1 que sur France 2, mais pour d'autres raisons. France 2 et France 3 sont dans des perspectives dans lesquelles l'audience. Enfin, je veux dire, parlons pas de France 2, France 3. Je veux dire, ils sont dans un trouble tel où précisément l'idée de concurrence n'a plus de sens. Mais c'est vrai que TF1 va réagir et ils ont les moyens. Et nous avons les moyens avec les auteurs et ils ont les moyens financiers de réagir. Il va y avoir une réaction qui va être bénéfique pour les 10 années à venir.
Ça, et il le faut.
Oui, il n'y a aucun. Mais il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Certes, nous aurions pu, personnellement, nous aurions pu anticiper le changement de format de Navarro il y a à peu près 5 ans, objectivement. Je l'ai proposé à l'époque à Takis et qui a dit « Ah non, ça marche ». Parce que clairement, et surtout une entreprise comme TF1, je ne vais pas en dire du mal, mais enfin c'est une entreprise du bâtiment, en principe on ne rénove le mur que quand il s'écroule. Donc là, il s'écroule, on va le rénover. Mais voilà, donc on aurait pu le faire il y a 5 ans. On ne l'a pas fait, mais on va le faire.
Et à la fois, on aurait pu faire du 52 minutes dans le prolongement des Brigades du Tigre. Et on aurait pu ne pas faire
sûr,
du 90.
Bien sûr. Alors là, attendez, il faut quand même un petit point. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est arrivé, donc la gauche est arrivée au pouvoir, le développement de France 3 et l'invention du mot téléfilm. Ça veut simplement dire qu'on a voulu faire croire que c'était des films. Et la première fois que ça a été utilisé, c'était sur France 3, qui était la chaîne du cinéma. On a donc pris des formats longueur cinéma, avec du casting d'ailleurs.
Hein, pour attirer des.
Le sommet ayant été atteint par Série Noire, hein, qui là, on avait vraiment le casting des réalisateurs. Donc à partir du moment où on s'est mis dans la position du film, on s'est mis dans des positions, ce qui fait qu'il excluait le 52 minutes. Enfin, vous voyez, le 52 minutes. D'autre part, les problèmes de publicité, enfin bon. Ça. Donc si vous voulez, une fois qu'on avait ce confort-là, c'est la raison pour laquelle la France en diffuse deux, parce qu'elle est encore dans le confort de la longueur. Je veux dire, alors qu'il serait plus logique de n'en faire qu'un, puis un deuxième après. Pour l'instant, ce n'est pas encore, et TF1 n'ose pas en faire deux différents.
Ça ne sera pratiquement jamais.
En fait. Ils l'ont fait qu'une seule fois en mettant « Le juge est une femme » après un autre, et ils sont viandés. Donc le coup d'après, ils en ont remis deux. Hein, donc on a bien un format, si vous voulez, de confort, d'écoute. De toute façon, le prime time, vous savez qu'il change suivant les pays, suivant les mœurs. Nous, on est sur un prime time plutôt long. Alors peut-être qu'il va y avoir une révolution. Avec le 20h30, si jamais, ce à quoi je ne crois pas une seconde, mais si l'arrêt de la publicité sur France 2 va amener à avancer, si vous voulez, la diffusion de la 2 ne prendra pas le risque parce qu'il n'y a qu'un leader qui peut modifier des habitudes. Désolé. Donc si TF1 ne le fait pas, ça continuera à 21h, et donc 21h va jusqu'à 22h30, ce qui est un module acceptable. Si vous avancez, vous devez bobiner. Mais à mon avis, on ne bobinera pas, donc on continuera à en mettre deux. Et d'ailleurs, TF1 est en train de dire, si on a une coupe supplémentaire, pourquoi on ne fait pas du 90? Ils m'en ont commandé. Alors, je peux vous le dire, parce qu'ils se disent finalement à quoi ça nous sert de découper, puisqu'au final, on en met deux.
Pour revenir quelques minutes sur la perception, aux États-Unis, le monde intellectuel, il s'intéresse donc aux séries très tard, parce que vous êtes universitaire, mais vous... donc en France, on sait, le monde universitaire, Séverine Barthes ici présente, c'est de quoi je parle, s'est intéressé quand même assez tardivement. Aux États-Unis, c'est à quelle époque?
Je pense que l'étude sur la télévision, le monde de la télévision, c'était plutôt les études médias, l'économie des médias, pendant très très longtemps, c'était pas vraiment les séries en tant que contenu. Après, il y avait les sociologues. All in the Family a intéressé les sociologues.
En 1970, quand même.
Voilà, c'est ça. Toutes les séries sur les femmes a intéressé les sociologues et les études féminines. Il n'y avait pas l'explosion de l'analyse qu'il y a maintenant.
Oui, pour être sérieux, je ne vois pas l'université massivement s'intéresser aux séries, à part Alain Karasek qui fait vraiment une étude, je vois nulle part sérieusement, à part en économie
Non, aux États-Unis maintenant, en Angleterre beaucoup, en Angleterre énormément.
Non, oui, ça en intéresse, mais enfin pas d'une façon avec la passion que vous y mettez. Vous voyez ce que je veux dire avec la distance sociologique.
Olivier Cohn.
Non, mais il y a une différence entre des universitaires sociologues qui s'intéressent aux séries en tant que reflet de quelque chose et des universitaires qui seraient, parce qu'il y a des études de cinéma, on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui étudient les séries sur le plan narratif, sur le plan esthétique, etc.
C'est exactement ce qui se passe maintenant.
Donc ça vient. Absolument. Mais c'est pas uniquement des sociologues.
Je dirais pas que ça vient, c'est bien installé.
Bien installé, d'accord.
Et ce sont souvent des universitaires dans des départements de littérature, de langue, excusez-moi, de littérature, de langue, de droit.
De cinéma, non ?
De cinéma, bien sûr, hein, Film and Media Studies, oui.
Moi, je crois qu'on peut mettre aussi un petit peu les pieds dans le plat parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a la différence dans pas mal de pays anglo-saxons et en France, c'est que, je ne vais pas faire de leçon d'histoire, mais la télévision américaine a commencé avec des grands auteurs, style Palichevski et Rod Serling, qui donnaient des conférences devant des universités pour parler de Twilight Zone. Désolé. Hein. Bon, en France, non. En Angleterre aussi, il y a eu de très très grands, très, très grands auteurs qui font de la télévision et qui n'avaient pas honte et qui le faisaient. En France, pendant des années... tu as très bien dit tout à l'heure, il y a eu un mépris absolu de la télévision, un mépris mais total.
Mais je veux bien revenir une seconde
qui maintenant, là-dessus. Et je peux me permettre simplement un petit exemple, maintenant, et je le tiens d'un réalisateur à Nîmes, me dit, il y a encore 5 ans, faire une série de télé, c'était visiblement, mes copains me regardaient, ils disaient, ouais, faut bien payer les impôts. Maintenant, on me dit, putain, tu fais une série, c'est sexy, quoi. Voilà, c'est ça qui a changé en France. Mais c'est très récent, avant, mais il y avait un mépris, et je ne vais citer personne, mais il y a encore pas mal de séries, dont certaines sur des chaînes, hein, faites par des gens qui ont un mépris, mais absolu pour le média, mais absolu.
Olivier Cohn.
Non, juste deux choses, cette époque, enfin ce moment-là dont on parlait tout à l'heure, c'est 95, enfin, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé... 2 ans avant, 2 ans après, enfin, ce que dit Alain, c'est même, enfin, le fait que les gens de cinéma acceptent et considèrent comme, bon, alors il y a plein de facteurs, mais c'est même presque un peu plus ancien que ça. Je me souviens qu'à l'époque, puisque j'étais à M6 et que j'allais aller à Kappa, il y avait une collection qui s'appelait Combat de femmes, le téléfilm, dont les réalisateurs étaient des réalisateurs de cinéma, c'est-à-dire, j'ai oublié c'est une collection absolument, oui, non, bien sûr, mais je veux dire, c'était des gens de cinéma qui tout d'un coup acceptaient de travailler à la télévision, et ils acceptaient de travailler à la télévision parce que effectivement ça commençait à venir, cette espèce de respect dont on parle là, et quand Alain parle de mépris, il a raison, mais en même temps, moi je dois bien dire que je faisais partie des gens qui regardaient ça vraiment de haut. Alors je m'interroge, parce que je me souviens très bien qu'à l'époque, c'est un point peut-être qui vaut peut-être la peine d'être évoqué. Quand j'y repense rétrospectivement, pardon, il y a un point qui me frappe, c'est que ces séries que je regardais quand j'étais gamin, et notamment les séries américaines, quand j'ai commencé à faire la critique de cinéma et à m'intéresser vraiment à cette expression, à l'audiovisuel et à l'art audiovisuel, quand je me rappelais de ces séries, je n'arrivais pas à les prendre vraiment au sérieux, et surtout il y a quelque chose qui me faisait peur dans l'idée de travailler dans la télévision, qui était que les séries me semblaient presque basées sur le principe de la répétition, c'est-à-dire que et évidemment
on fait exactement le même,
voilà, c'est ça, et les héros recommencent à, ils sont exactement identiques la semaine suivante, ce qui pour moi avait un côté malsain quelque part, presque une sorte de compulsion de répétition incarné sur l'écran, qui me semblait pas du tout m'apporter la même chose que l'ouverture, je parle de psychologie presque au sens subjectif, hein, que pouvait m'apporter un film de cinéma où le héros, évidemment, est différent, enfin en général, entre le début et la fin du film. Et ça, c'est vraiment une différence. Alors, évidemment, historiquement, si on regarde, je doute pas qu'Alain va me dire que... Non, mais Alain ou tout le monde, enfin, je veux dire, on va bien se souvenir qu'avant 95, il y avait des séries feuilletonnante, et Château-Vallon d'ailleurs en était une, malheureusement. Mais ce qui me frappait, moi, à l'époque, quand je découvrais Murder One, Urgence, et même Friends, d'une certaine manière, c'est qu'il y avait une évolution. Voilà. Et là, tout à coup, on n'envisage plus une série comme chaque semaine, je vais prendre ma dose d'une heure de la même histoire avec quelques chaque variantes.
Chaque semaine, c'est une nouvelle enquête policière, voilà, ou chaque exactement. Semaine, c'est une nouvelle. Non, c'est un nouveau cas médical,
chaque semaine,
un nouveau médecin.
C'est un petit morceau du puzzle,
ouais.
Et je vais vers quelque chose de gigantesque. Et c'est une. On parlait de Balzac tout à l'heure. C'est, voilà, c'est tout à coup, c'est un morceau d'un grand film que je ne pourrais pas voir au cinéma puisque ce serait beaucoup trop long.
C'est un roman.
Oui.
C'est un roman.
Mais c'est de toute
c'est
façon.
Le roman, c'est le roman de la culture visuelle dans lequel nous sommes. Ouais. C'est, on a les. On ne monte plus les escaliers quand on a un ascenseur et on peut lire un roman maintenant avec toute la technologie que la, qui est à notre portée.
Mais c'est d'ailleurs le vieillissement de l'audience, si vous voulez, des chaînes, qui est vraiment sensible en France, énormément, hein, sur le sort propre, provient de ce phénomène-là. Parce que le phénomène de prendre plaisir à retrouver quelque chose, c'est celui que malheureusement apporte l'âge, avec sa maison de campagne, il y a des tous les samedis, je veux dire, le phénomène de la découverte, c'est un phénomène de jeunesse. Donc il est clair que dans notre réflexion, et je le vois parce que moi j'ai produit Louis La Brocante qui touche que les vieux, mais qui justement sont satisfaits quand on ne change pas. Le plus mauvais épisode, absolument. C'est ceux qu'on a modifiés. Donc effectivement, le salut pour les chaînes qui voudront toucher des jeunes, c'est précisément d'apporter une nouveauté à chaque épisode, une partie d'un tout. Et c'est pour ça que les épisodes, enfin les séries qui vont être longues sur une année c'est important dans une vie. Enfin, c'est tout un cycle qu'on a. Qui vont pouvoir suivre ce cycle, comme Prison Break, enfin, qui suivent des destins. Enfin, ça, effectivement, c'est une préoccupation sur laquelle on est. On n'était pas sur cette préoccupation-là, on était au contraire sur la préoccupation de la répétition, qui a vu vieillir notre, le public d'une façon exceptionnellement rapide. Hein. Donc c'est clair que tu exprimes bien l'urgence à réintroduire de la nouveauté, et c'est une petite révolution quand même, tant auprès des auteurs que des directeurs de chaîne, enfin, il y a un travail.
Pardon, mais juste une question, parce que là, je ne sais pas, aux États-Unis, est-ce qu'on a encore des séries aujourd'hui qui sont sur le modèle des années 70-80,
c'est-à-dire formule, ouais. Oui, tout à fait.
Où ça n'évolue
oui, tout
pas
à fait.
Où c'est alors, à chaque fois une nouvelle alors, histoire de...
Oui, mais non.
L'homme qui va être 3 milliards, le ministère de
l'Ouest,
tout
non. Il y a quand même une différence entre les séries purement feuilletonnantes, dans lesquelles la base de la série, c'est un concept qui démarre le premier épisode et qui, on l'espère, va se terminer au dernier avec la résolution finale. Et les séries dans lesquelles il y a des personnages, des policiers, des choses comme ça, mais dont la personnalité évolue.
Bien sûr.
Pour reprendre l'exemple des Mystères de l'Ouest ou d'autres séries de l'époque, on referait Mystères de l'Ouest maintenant. Ouais. Il n'y aurait pas peut-être une grande trame entre chaque épisode, avec un truc comme ça, ce serait pas Lost, mais par contre, épisode en épisode, on verrait une évolution dans le personnage, peut-être qu'il pourrait faire une rencontre dans le 15e, se marier dans le 20e.
C'est ce qu'on appelle de la mémoire, en fait.
Exactement, les personnages commencent à voir.
John se rapprocherait d'Artemus.
Il faut savoir qu'on s'était interdit.
Vous êtes bien pervers, très cher.
On s'était interdit ça, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui ai lancé à l'époque à France 2 l'Instit, où précisément. On l'a fait, sa femme l'avait quitté, sa fille, pour précisément, à aucun moment, il ne puisse être modifié dans sa vie. Parce qu'il était en quête de cette fille, donc il ne pouvait pas tomber amoureux. Donc on avait au contraire les ressorts pour que justement ça soit toujours pareil, et que la seule modification, c'était ce qui arrivait à l'enfant dans l'école ou aux parents dans l'école. Hein. Donc on sort de ces schémas complètement. Hein. Maintenant, on est obligé pour des...
Puisqu'on est dans les outils, est-ce que vous ne pensez pas que séries américaines, séries françaises, les séries américaines ont des moyens, elles se développent sur une saison, il y a le phénomène des premières, enfin, il y a des grands épisodes qui débutent une saison, il y a les finals, il y a le système des autopromos qui est très performant. C'est quelque chose qu'on a encore du mal à faire fonctionner en France pour faire exister une série.
Non, ça dépend de la série. Là, bon, moi, j'ai fait La Main Blanche qui a bénéficié. Bon, d'abord, je l'ai voulu ancrer en France, parce que ça se fait dans les Marais Salants, ça se parlait à Guérande. Donc, il n'y avait pas de comparaison avec l'Amérique, c'est unique au monde. Donc, on a joué cette unicité comme les experts Miami. Enfin, on a joué le lieu. Hein. Et on a bénéficié d'une autopromo très forte de la part de la chaîne, plus maintenant téléphone mobile et tout. Non, on est en train de s'adapter, forcément, mais il faut le produit.
Je veux dire, Alain, sur les épisodes.
Très bien, et je ne partage pas tout à fait ce point de vue, dans le sens où ce n'est pas la forme qui fait l'intérêt de la série, c'est son contenu. C'est souvent ce que, et ne croyez pas les journalistes, c'est souvent ce que la plupart des journalistes qui ne connaissent rien disent, ah ben voilà, mais les séries américaines, ils ont tellement de moyens que ça ne peut pas être aussi bon que les françaises. Excusez-moi, pour reprendre un cas que vous devez adorer, la loi de Los Angeles, c'était quand même 5 personnes qui discutent autour d'une table. Je suis navré, quoi. C'est 5 personnes qui discutent autour d'une table. Sauf que ce qu'ils disent, c'est quand même sacrément bien écrit. Et ce sont de super bons acteurs. Et pour reprendre l'exemple de Perry Mason, c'est la même chose. Type, c'est un décor, c'est une salle de prétoire, voilà, quoi. Je veux dire, Law & Order, qui en est à sa 15e, 16e, 17e, je ne compte plus,
17e saison, c'est quand même du crime, et après, c'est les discussions à l'intérieur de décors fixes. Mais c'est extraordinaire, je veux dire. Mais c'est d'une complexité incroyable, etc. Donc, je veux dire, excusez-moi, alors les moyens, bien sûr, les moyens, en fait, sont importants.
Je parle des moyens de production, je parle des moyens de, tu vois, de...
Bah, les pour vanter la série, en moins maintenant, parce que de toute façon, une série française, tout comme une série américaine, va coûter tellement cher à une chaîne qui va la produire ou qui va la diffuser, que de toute façon, maintenant, c'est des bandes sans arrêt, c'est tous les journaux sont inondés de photos, de
France
textes.
France Culture se casse la gueule.
De, voilà, France. Faut-il y voir.
Non, et d'ailleurs, pas du tout. TF1 a décidé de se doter d'un ITF1 donc pour avoir les mobiles. Enfin, tout le monde a conscience qu'il faut. C'est-à-dire que TF1 est en train de recréer de nouvelles marques, hein, puisqu'ils n'ont plus les marques anciennes, et ils vont mettre le paquet en promo. Je suis tout à fait d'accord avec Alain. On a moins de moyens, mais proportionnellement, on en a. Je veux dire, c'est pas ce point-là qui changerait. On nous donnerait 10 fois plus d'argent, ne changerait pas grand-chose à la façon dont on raconte.
Olivier, t'aimerais pas être un peu mieux exposé de temps en temps ?
Ah ben si, si, bien sûr, clairement. Enfin, moi j'ai cette impression. Enfin, je veux dire, entre la première saison de Reporter où il n'y a eu aucune publicité nulle part et Damages où il y a eu des affiches de Glenn Close dans tout Paris et très bien en Grenage aussi, ça fait quand même une différence. Enfin, je ne sais pas si elle se sent en audience, mais
simplement pour parler de Reporter, excusez-moi, on est dans une série française. Des journalistes dont j'ai fait partie ont été invités sur le plateau. Toutes les magazines parlé. Il y a eu de la promo partout. Il y a eu des bandes annonces.
Non, non, il
n'y
a plus. Non, non, il n'y a pas
eu la promo. Excusez-moi, il y a encore 15 ans, sur une chaîne osait diffuser une série. C'était très minime comme promo.
Invité sur France Culture.
Absolument. Non, non, mais attendez, ça c'est autre chose. Ça c'est le travail des journalistes. Moi je parle de la promotion, comment elle est conçue en amont. Et ça, on n'est quand même pas franchement. En France,
on n'y est pas encore, mais objectivement, le travail qui a été fait sur Damages, il n'est pas parce que la série était meilleure, elle tombait aussi. Ils étaient attaqués par Orange, donc à un moment, il faut aussi comprendre sur les entreprises.
C'était avant.
On est capable de faire des affiches et tout. Je crois que non, là, sur ce plan-là.
Non, mais ça vient, vient. Mais c'est progressif quand même. Quant aux moyens, ça, c'est un vaste débat. Mais c'est vrai que quand j'entends que le pilote de la nouvelle série de J.J. Abrams, c'est ça, Fringe, coûte à peu près. Le prix de la totalité.
Oui, mais ce n'est pas pour ça que ça sera meilleur.
Non, mais il y a une surenchère. Quand tu parlais de la loi de Los Angeles, c'était il y a combien de temps ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est trop vrai ça ?
Oui, tout à fait.
Quelles sont les séries qui coûtent 3 francs 6 sous et qui marchent très bien aux États-Unis ?
Ah non, une série ne coûte jamais 3 francs 6 sous et elle coûte 3 francs 6 sous simplement, elle coûte cher simplement parce qu'il faut produire un épisode par semaine. Mais c'est ça en fait le truc.
Je sais pas mais si vous aimez, c'était très cher justement parce qu'il y avait
à l'époque,
il y avait le même décor chaque semaine, on bougeait pas, c'était déjà une économie énorme. Il y avait le récit fermé, donc on avait un schéma qu'on pouvait suivre. Et il y avait les salaires des acteurs, mais au départ, lui, il n'était pas un très grand acteur au départ.
Fait.
Il est devenu une institution de chaque maison au bout d'une année.
Les séries américaines coûtent pas cher.
Je me demandais si ce que vous décrivez là est encore possible aujourd'hui, serait encore possible aujourd'hui aux États-Unis, je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère des moyens qui fait
non, que... je trouve pas personnellement tout. Damages pas excessivement. C'est très 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 bien produit. Je veux dire, il y a un coût. Et pour moi, le mieux produit de ce que j'ai vu aux États-Unis, enfin à l'étranger, donc c'est anglais. Enfin, c'est les Tudors.
Absolument.
Extrêmement bien produit. Moi, je pourrais faire le coup. On peut absolument produire comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout à fait les moyens. Donc, ce n'est pas une question d'argent.
Je pense aussi.
C'est une question. Alors, ça, c'est vrai que là, je suis obligé de dire pour mes camarades, ceux qui travaillent pour France 3, France 2, France 3. Moi, je suis producteur depuis quand même. Et la classe, c'est quand même formidable. Et bien, le problème d'un producteur, c'est de savoir de combien il va disposer. C'est ça. C'est d'avoir une espèce de petite projection sur une année. C'est ce qui manque formidablement. Donc actuellement, les gens rentrent dans une série, on n'a pas les moyens, alors là, c'est affreux. Mais si vous avez une somme de 100, un producteur, il fera pour 80. Voilà, c'est son boulot. Alors après, on peut avoir 1000, mais ça ne changera pas grand-chose. Moi, vraiment, les Tudors, c'est fait à l'économie, mais c'est formidablement fait à l'économie, parce qu'on leur a dit, et ils ont calculé, il y a de l'or dans chaque coin. Enfin, c'est formidablement fait. Et je trouve Damages aussi formidablement produit. Je serais curieux de connaître le prix, qui n'est pas du tout excessif, à mon avis. Parce que c'est très bien fait. Je parle pas du prix des acteurs.
Non, tout à fait. Mais en plus, pour aller dans votre sens, ce sont des séries faites pour le câble. On voit de plus en plus maintenant aux États-Unis des séries faites pour des chaînes du câble, TNT, AM, etc., qui n'ont pas des budgets faramineux, qui n'ont pas les budgets des grandes chaînes. En comparaison, c'est comme si Allez, Canal Jimmy se mettait à faire une production série, vous voyez ce que je veux dire ? Mais une vraie, une bonne. Voilà, donc.
Deadwood, je crois que ça coûte moins, beaucoup
Deadwood
moins cher.
Deadwood coûte très cher parce que c'est HBO, je parle de chaîne du câble gratuite, ah, TNT, etc., etc. Il y en a de plus en plus. Une série comme Mad Men, dont vous avez peut-être entendu parler, ça se passe dans les années 60, c'est des publicistes. Moi, je n'ai pas aimé, mais enfin, c'est une question de goût. Mais c'est, grosso modo, voilà, il y a pas de, c'est fait pour une toute petite chaîne du câble américaine. Et donc, voilà, ça se passe dans les années 60. On s'attend à des décors mal. Non, il n'y a quasiment pas d'extérieur. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher.
Il y a une véritable écriture de la série.
Mais il y a une écriture.
Qui est raisonnée, absolument. Qui est adaptée aux moyens. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a réellement des leçons à prendre et comprendre, d'ailleurs.
Là, je voudrais juste ajouter que dans les séries judiciaires, pour citer un exemple, parmi les scénaristes, ce sont des procureurs qui ont quitté le métier, ce sont des avocats qui ne plaident plus. Ils savent de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que les questions qui se posent, les questions judiciaires et juridiques qui se posent, sont de plus en plus complexes. Et le public a eu 60 ans pour pouvoir se mettre à la page.
Alors, on reviendra sur cette question dans quelques minutes. Juste avant, on parle de promotion de séries, enfin de moyens mis pour produire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence par rapport aussi au choix de programmation ? Enfin, Olivier Cohn, vous avez travaillé sur H Sensible. On voit très bien que H Sensible, son gros problème n'est pas la qualité, n'est pas l'argent qui a été mis sur cette série, mais bien le choix de la diffuser à un horaire où d'habitude on diffusait Hélène et les garçons. Alors que c'est une série qui pourrait un public beaucoup plus...
Je ne sais pas si c'est le problème de choix, parce que le choix, pour être tout à fait honnête, il avait été fait dès le départ. Hein. Je veux dire, malgré ce qui a été dit, on aurait bien aimé que ça soit diffusé une demi-heure plus tard, quand on a, enfin, avec le résultat final. Mais très honnêtement, je peux pas dire que France 2 ait décidé de le diffuser plus tôt. Donc je ne pense pas que la responsabilité de l'échec, enfin, si on l'interprète comme ça, de la série soit vraiment liée forcément à l'heure de diffusion. Après, je sais pas, il y a plein de facteurs, on en a discuté pendant des mois. Est-ce que la chaîne aurait dû insister plus, parce que, n'est-ce pas, Plus belle la vie a été un exemple après coup, même si c'est pas très comparable, mais enfin, Plus belle la vie a eu des scores très décevants au départ et finalement est un carton absolu aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un phénomène d'habitude à installer aussi. Bon, mais peut-être tout simplement qu'elle ne touchait pas le public de manière pour des raisons, voilà, pour des raisons de, je sais pas, de fond, voilà, on a essayé d'y mettre un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a eu un accueil critique extrêmement agréable et flatteur, à tel point qu'on a commencé à travailler sur la seconde saison et qu'on a été très surpris quand France 2 a...
Mais quand France 2 diffuse Angela 15 ans, ça marche quand même à peu près. Et quand France 2 diffuse H Sensible quasi aux mêmes horaires, à peu près.
Oui, non, mais là encore, c'est du 52 Angela 15 ans.
Et qu'est-ce 52, qui fait que tout d'un coup, on a un public... voilà.
Bah, attendez, là,
je suis pas sûr que ce soit un succès.
Angela 15 ans, non, mais la question, là, elle peut se poser encore plus depuis lundi, parce que là, il y a pour le coup, les universitaires qui sont dans la salle peuvent s'étonner qu'M6 diffuse Pas de secret entre nous à 20h. Là, pour le coup, parce que, si vous voulez, il y a des règles simples, effectivement, en programmation. Un horaire égale un public. Un public égale une audience. Donc, si vous voulez, c'est un syllogisme évident. Moi, j'ai regardé les trois épisodes. J'espère que vous avez été nombreux à le faire. Ça avait été prévu pour 18h30. Ils le mettent à 20h. Déjà 20h, il faut savoir que c'est le début des journaux, c'est-à-dire les titres. Donc tout le monde, grosso modo, est intéressé par les titres, sauf les très vieux qui s'en foutent. Ceux qui ont plus d'avenir se foutent de l'avenir du monde. Non mais c'est pour ça que France 3 ne fait pas de journaux qui sont toujours eus grâce à la classe et à toutes nos couillonnades. Ils ont eu du public parce que les gens s'en foutent. Donc quand vous faites une série de Jones... Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est bourré de jeunes sortant des grandes écoles, enfin, allant boire un verre de vin. D'ailleurs, moi, des jeunes de la série, j'en ai vu ce soir, ici, à 20h. Donc, ils ne sont pas devant la télé. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais qui regarde ? Non, mais voyez, donc là, il va y avoir un bilan à faire, et en tant que professionnel, on le fera, c'est-à-dire le bilan de la qualité de la série, puis le bilan, elle est mal placée. C'est exactement comme quand vous faites Fort Boyard, que j'ai eu le bonheur de produire, vous faites le lundi. On sait très bien que le lundi, il n'y a pas d'enfant devant la télé. Voilà, il y a un jour, c'est pas le lundi. Donc ça ne peut pas marcher. Donc ça s'arrête au bout de deux jours. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a quelques surprises de programmation en France, alors qu'aux États-Unis, jamais un type ferait ça. Il serait lourdé dans la journée, à mon avis. Donc, mais pas en France. Hein. Donc c'est vrai qu'en tant que professionnel, enfin, de temps en temps, il faut quand même regarder quand ça a été placé. C'est une erreur, à mon sens, de placer... qui est une série qui n'est pas si mauvaise que pas pour l'instant, ce que j'en ai vu, j'ai vu trois épisodes, mais enfin, en tous les cas, elle ne peut pas marcher à 20h, ça c'est clair. Et ça marchera encore moins avec l'arrivée du Tour de France, parce qu'il y a à tout sport sur la 3 et les Jeux Olympiques. Ça va être une cata, c'est évident.
Tout à l'heure, vous parliez des choix faits, des bons choix faits dans les Tudors avant de tourner. Ça renvoie à la place, la prédominance de l'auteur dans le système américain.
En l'occurrence, non, là, c'est vraiment le producteur, hein, c'est le executive producer, parce qu'ils ont trois décors. Hein, ils ont utilisé dans quatre sens les couloirs, plus ils ont récupéré tout ce qu'il y avait d'or pour montrer les couronnes. Non, c'est très bien fait. C'est pas l'auteur, là, en l'occurrence.
Pour,
ça, c'est
pour le revenir au le système français où l'auteur, pour le coup, a pas de prédominance, enfin, peut pas aller jusqu'au bout dans ses choix. Est-ce que ça change vraiment la donne?
Je pense que Olivier est à même de
pouvoir en parler, mais moi simplement j'ai tendance à penser que c'est pas le même métier. Enfin, il y a en effet l'auteur, le scénariste, et il y a l'exécutif producteur qui s'avère aux États-Unis et beaucoup en Angleterre être aussi le créateur et l'auteur.
Ça, c'est un problème historique. Là,
mais voilà, est-ce que on sait faire les deux? Je veux dire, pour être clair, aux États-Unis, en effet, le créateur de la série, il conçoit la série et par la suite, on va faire appel à lui chaque seconde de la journée pour décider de la couleur des rideaux, pour décider de qui va être la guest star dans l'épisode, pour décider du montage final de l'épisode, pour décider du ton à avoir pour la scène 42 de l'épisode 25, etc. etc.
Donc ça change des choses.
Donc voilà, donc ça, parce que c'est lui qui a l'âme de la série en lui, c'est du David Chase, c'est du... Enfin bon bref, c'est tout, c'est du Steven Bochco, etc. etc. C'est tous les types qui, justement, maîtrisent un petit peu leur truc, qui sont à la fois auteurs, mais qui sont surtout producteurs en tant que tels, en tant que décideurs, pas financiers, mais en tant que décideurs. Donc ça, c'est une chose. Il existe aussi aux États-Unis, en Angleterre, et je pense en France, plein de scénaristes qui n'ont pas les capacités, ou qui ne veulent pas, ou qui n'ont pas envie d'avoir ce type de responsabilité écrasante, et qui se disent, voilà, moi j'écris, et voilà, quoi, et je fais partie d'un pool, et puis voilà. La question peut-être à se poser en France, c'est est-ce qu'on a je ne veux pas répondre, je ne m'y connais pas assez dans ce domaine-là. Est-ce qu'on a des scénaristes qui peuvent maîtriser la production d'une série dans le sens où c'est leur vision, c'est leur truc? Là, c'est rouge et c'est pas jaune, là, c'est blanc et c'est pas noir.
Ça arrive ponctuellement, puisque
certains, comme
la main blanche, par exemple, la main blanche, le producteur exécutif, c'était l'auteur. Mais il est salarié chez moi. Donc tout ce qu'on fait, on le fait comme ça. Donc on a un tandem, donc on imagine et on produit. Donc on n'a pas le, il n'y a pas de déperdition. Mais c'est un choix de professionnel, je veux dire, voilà, c'est pas...
Olivier, je crois qu'il y a un moment, tu t'es essayé de te renseigner justement là-dessus. Comment fonctionnait le système américain?
Ça, par curiosité, je voulais savoir comment ça se passait là-bas, mais pas seulement pour cette histoire de showrunner. Je voulais savoir comment les auteurs américains travaillaient sur des choses très, très précises, ponctuelles, dont on a beaucoup de mal à trouver l'information comme ça... genre à quelle heure ils se lèvent, combien d'heures ils travaillent par jour, combien ils sont payés, enfin ce genre de choses. Hein, c'est rien de... Oui. Non, sur la question du showrunner...
Est-ce que toi, tu es un showrunner, par exemple? Est-ce que tu as l'impression d'avoir des prérogatives?
Non, je ne suis pas showrunner parce que je travaille pour une maison de production, pour un producteur qui est Claude Chély. Ce qui est la chance assez grande, je crois, que j'ai dans ce cas présent, c'est que j'ai travaillé pendant 8 ans avec Claude comme directeur littéraire dans des bureaux. On se parlait tous les jours, matin, midi, soir. Enfin voilà, donc on se connaît par cœur. Donc quand on arrive au stade de la mise en production, je veux dire déjà dans l'écriture, il y a un échange permanent. Et quand on arrive au stade de la production, il peut tout à fait me dire, tiens, il y a du casting, est-ce que tu veux regarder, parlons-en, qu'est-ce que t'en penses, moi je pense ci, toi tu penses ça.
Ça, c'est déjà bien.
Ça, c'est déjà énorme. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Ce qui veut dire que c'est moi qui vais décider, si on n'est pas d'accord, de prendre tel acteur ou tel autre. Et peut-être
c'est pas la généralité.
Et peut-être que c'est pas plus mal. Ah non, en France.
En France, il n'est absolument pas la généralité.
Non, c'est pour ça que j'ai dit.
Mais d'accord.
C'est des exceptions, bien sûr.
Non, j'ai déjà de la chance. Donc, je sais pas comment appeler ça, je suis un tiers de showrunner, non, je sais pas comment on dit.
Un zeste de showrunner.
Un consultant de showrunner, disons. Voilà. Mais par contre, évidemment, il y a la question qui se pose, et sur H Sensible, d'une certaine manière, elle se posait déjà. Pour un auteur comme pour un producteur, j'imagine, et un writer, je sais pas, parce que c'est encore autre chose, mais il y a la question des intentions que vous avez au départ, et comment faire pour que ce qui se retrouve sur l'écran à l'arrivée soit le plus proche possible des intentions, si tant est qu'elles soient bonnes. Après, il y a la question des intentions et de la qualité des intentions. Mais je veux dire, une fois qu'on se dit elles sont bonnes, comment on fait pour avoir des scènes, et ça a l'air bête comme ça, mais ça peut très vite déraper, qui ne sont pas un contresens par rapport aux scènes que vous avez écrites, etc. D'ailleurs, je sais pas, vous écrivez que vous avez besoin d'un personnage qui a l'air tout innocent et qui a l'air d'avoir peur d'une mouche dans une scène, et vous avez un master qui arrive au casting et qui se retrouve sur l'écran et qui lui-même fait peur à tout le monde. Donc ça peut arriver, c'est étrange. Alors ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans la chaîne quelque part. Donc j'imagine que l'une des qualités de certaines séries américaines, c'est justement qu'il y ait ce principe.
Mais c'est tout. Voilà. Tout repose sur le showrunner ou le producteur exécutif, qui est avant tout celui qui écrit, qui a écrit, voilà, qui a l'idée, qui a le truc. C'est pas le même système, en effet. Et donc, a priori, on lui demande tout, et c'est lui qui a le fin mot, je le répète, toutes les secondes.
Bien sûr.
Pour répondre à ta question, il se lève à 7h le matin, il se couche jamais le soir, il touche un paquet de pognon, mais il voit pas sa famille pendant 9 mois de l'année.
Bien sûr.
Donc voilà.
Exemple, je prends l'exemple d'âge sensible, et c'est juste qu'il y a eu là, et ça arrive parfois, une alchimie qui a fait que, moi j'ai travaillé avec les auteurs en tant que directeur littéraire, ensuite dans la mise en production, il se trouve que j'étais directeur artistique d'une certaine manière de la série, et que j'ai suivi un peu ça, et que comme je m'entendais bien avec les auteurs, je crois que les intentions que j'ai essayé de faire passer et de passer le relais au réalisateur ont fait que tous les auteurs sont venus me voir à la fin de la série en me disant on est ravis, on se retrouve complètement là-dedans, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'était moi qui avait le rôle le plus important, mais qu'il y avait comme ça sur cette série, il y a eu une sorte de passage de relais qui s'est bien fait. Après, il y a encore une dernière chose, il faut aussi peut-être le dire, parce que je ne suis pas sûr que ce soit complètement étranger à ça, puisqu'on parle de la culture du showrunner aux États-Unis. On peut aussi parler de la culture de la politique des auteurs en France. Je suis bien placé pour savoir de quoi il retourne, puisque j'ai décrit du cinéma. Et les réalisateurs, je ne sais pas quelle expérience Jean-Pierre là-dessus, mais les réalisateurs, pas tous bien sûr, et en plus ce n'est pas forcément une critique, ont envie de s'emparer d'un scénario qui leur arrive. Et c'est là que commencent évidemment les discussions, parce que le scénariste va dire moi j'ai des intentions, le réalisateur va dire un scénario ce n'est qu'un outil, une base de départ pour transcender et pour arriver au résultat final, et chacun va tourner autour du pot sans oser dire vraiment qu'il va avoir le dernier mot
Vous arbitrez des choses comme ça, Jean-Pierre?
Attends, oui, sans arrêt. D'ailleurs, déjà, quand un réalisateur à qui on propose un texte dit c'est de la merde, faut tout refaire, il est viré. Donc déjà, on commence pas à travailler. Parce qu'en général, ça veut dire qu'il veut toucher des droits d'auteur, faut pas se raconter d'histoire. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mêler, jusqu'au président de la République, qui dit je rêvais de faire des programmes. Non, mais je crois que c'est...
Mais c'est ça.
Voilà. Donc si tu veux, le directeur de la chaîne, le conseiller machin, Donc nous, c'est notre argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est notre argent. Nous, on vit de ça. Donc nous, on essaie... évidemment, comme c'est les clients, on fait semblant d'eux, mais en même temps, on continue, parce que notre vrai client, on en est conscient, c'est le public. Parce que si on loupe le public, on dit « Ah, mais ça t'avait plu », entre-temps, on ne t'a pas oublié qu'il nous avait demandé bleu alors qu'il fallait mettre vert. Si quelqu'un a vu la main blanche, mais j'ai eu une engueulade terrible parce que j'ai voulu mettre le labo dans une église parce que je voulais de la lumière. Parce que labo, ça veut dire bleu, bleu, mort, mort. Si vous voulez 80% d'un film autour de la mort, il vous renvoie ça. Donc je voulais remettre de la lumière. Bagarre terrible. Je l'ai fait, j'ai profité des vacances, le type était plus là, il l'a pas vu, on l'a tourné. Bon, mais donc on est en lutte permanente parce que tout le monde s'en mêle. S'il y avait que le showrunner et le réalisateur, à la limite, ça se passerait dans nos bureaux, on fermerait la porte. Mais malheureusement, ça monte plus haut. Et pourquoi? Tout simplement parce que le système financier est simple. La chaîne finance à 80%. Donc ils te disent « Hé, coco, tu t'imagines pas qu'on n'a pas notre mot à dire ?» Comme le président de la République dit « C'est moi l'actionnaire ». Non, non, c'est l'État qui est l'actionnaire, c'est pas M. Sarkozy. Mais on dit, M. Guéant dit textuellement « Sarkozy étant l'actionnaire, il a son mot à dire. » Donc à partir de ce moment-là, on a la convention d'écriture. On est dans un système, si vous voulez, où de toute façon, on nous tient. Alors les très gros producteurs, c'est arrivé que deux fois, on dit « Moi, je paye le film tout seul, vous m'achèterez après. » C'est arrivé dans « Jean-Luc Azoulay a fait un Navarro tout seul. » Panique à bord, parce que c'était plus du tout la règle. La règle, c'est pas... Les Américains, ils prennent un risque. Si ça continue, après, roule. Nous, on n'est jamais... Vous voyez ce que... On n'est pas du tout dans cette... politique là. Et je veux dire, t'as travaillé à M6, alors là c'est pire. Parce que la robe rouge, c'est pas le réalisateur. Lui la voulait jaune. Le showrunner nous l'avait voulu bleu. Le producteur, lui, il voulait la moins chère. Enfin, lui, au moins son problème est clair. Mais la chaîne voulait vert. Et tout ça, donc ça s'est terminé. Ça s'est terminé marron, en général.
Je confirme,
forcément.
Je voulais vert, effectivement.
Ça se termine marron, forcément. Après toutes ces interventions. Donc encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans le même système de financement. Donc
faut aussi rajouter.
Pas du tout. Non. Simplement, aux États-Unis, les chaînes payent 80% du budget ou 75% du budget d'une série. C'est après les grosses sociétés de production qui les produisent, la Warner, la Columbia, etc., qui payent le reste, qui empochent le gros lot si la série est un succès vendu à travers le monde, et qui y sont de leur poche si la série n'est pas vendue à travers le monde, et se ramassent la gueule au bout de 9 épisodes. Donc, quelque part, on n'est pas trop loin. Enfin, les chaînes aussi, mais. La différence, c'est qu'il y a depuis 50 ans aux États-Unis, tout comme en Angleterre, on en revient à ça, je suis navré, un respect de l'auteur en disant oh, putain, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui sait, on ne le touche pas. Jusqu'au jour où l'audience tombe, et là, c'est Coco, tu viens dans le bureau et tu nous expliques ce que tu veux faire. Non, mais vous comprenez, l'île, en fait, c'est un truc. Non, non, tu nous le dis. Non, mais les gens, ils ont des super pouvoirs et tout, machin. Non, 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 attends. T'as passé une saison à faire que de la merde, là, maintenant, tu nous dis ce que tu veux faire. Non, mais alors, vous comprenez, là, on va faire des vilains et tout, machin. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais sinon, on lui fout une paix presque royale.
Jusqu'à presque.
Jusqu'à l'échec. Tout à fait. Ou là, on le remplace vite, on en met un autre à la place, etc. Mais généralement, c'est on ne touche pas. On sait que de toute façon, il est submergé. On regarde l'épisode final, on fait les remarques, on met ça non et tout, mais voilà, on le laisse bosser, quoi. Enfin, bon. En tout cas, on a un respect pour son boulot.
C'est pour ça que tout le monde sait qui est David Chase. Tout le public sait qui est Joss Whedon. Ce sont des exactement. C'est des gens qui sont connus. Comme
Oliver Greenblatt, qui a été un très grand producteur, ben vous serez incapable de citer un nom.
Absolument. Non, mais soyons très clairs. Dans la presse, de toute façon, télé, on voit série, on voit le nom de qui. Du réalisateur.
Oui, d'ailleurs, moi, ma famille ne croit absolument pas que je travaille à la télé, parce qu'ils n'ont jamais vu mon nom nulle part. Non, mais. J'espère que France Culture.
On ne parle jamais d'un épisode. On parle où le réalisateur dit j'ai réalisé un film. Il ne va jamais oser dire j'ai fait un téléfilm. C'est honteux. C'est un film. La terminologie est importante parce que ça dénote bien l'esprit dans lequel c'est fait. C'est un film. C'est vachement important. Il y a eu des débats simplement. Je suis navré, là, je suis un peu passionné par le sujet parce que. Participer à une rencontre, c'était la deuxième fois, on va pas la citer, mais c'est pas grave, dans laquelle moi je suis plutôt positif, j'ai plutôt envie, comme vous, je dis voilà, de toute façon ça va progresser, ça va avancer, les Américains foutent des coups de pied au cul à tout le monde, donc par voie de circonstance, tout le monde doit se remuer, etc. Et j'ai assisté quand même à des rencontres entre scénaristes et tout, dans lesquelles les mecs sont toujours en train de se battre pour savoir qui est le dominant, c'est le réalisateur ou le scénariste, pendant 2 heures. Flûte!
D'ailleurs,
il y a au secours!
Il y a une note qui est passée.
Il y a urgence, quoi, sortez-en!
Il y a une note qui est passée pour savoir ce qui serait inscrit, donc normalement c'est marqué un film réalisé par. Et les autres voulaient un film 2. Ouais. Ça fait l'objet de débats absolument sans fin. Oui, nous, personnellement, on s'en foutait royalement. Mais effectivement, l'urgence n'est pas là. L'urgence est de faire le film.
Olivier Cohn, on parlait d'M6, mais à Canal+, quand vous travaillez sur Reporter, comment on travaille là y a une, avec le diffuseur, avec le producteur, avec...
Oui, enfin, quand j'étais à M6, c'était du côté du diffuseur. Hein.
Mais là, après, quand vous êtes... vu qu'on parle des...
Non,
des
mais je vais vraiment pas être original. Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu dire ça. Si c'est la question, ça se passe assez simplement avec Canal. C'est-à-dire, on est d'accord sur le concept de la série. On leur propose des... Les étapes habituelles, une bible, synopsis.
Mais on vient pas sans cesse vous.
Non, pas sans cesse, mais alors il y a des moments où il y a des divergences de vues un petit peu. Il y a des moments où il y a voilà une deuxième saison, c'est plus compliqué qu'une première parce qu'il y a eu la diffusion d'une première saison et que tout le monde interprète les chiffres d'une manière. C'est le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Donc il y a ceux qui voient le verre d'eau à moitié plein, ceux qui le voient à moitié vide. Et pourquoi il est à moitié plein et pourquoi personne n'est d'accord. Donc du coup. Il y a évidemment des demandes un peu différentes. On vous demande d'infléchir un peu les choses de tel côté plutôt que de tel. Bon, mais ça fait partie des discussions classiques, je dirais. Et avec Canal, il y a une. Voilà, enfin, je sais pas, c'est pas toujours le cas. Il y a une compréhension, j'ai l'impression, réciproque.
De toute façon, il faut quand même le dire, c'est mieux quand ça marche.
Absolument.
Tout le monde est détendu. Non, mais parce qu'en ce moment, ça ne marche pas du tout. Donc personne n'est détendu, c'est la cité de la peur. Alors dans la cité de la peur, non, je signale, pour ceux qui bossent, c'est plus compliqué. Parce que tout le monde a peur de tout. Et donc c'est effectivement plus compliqué. Il y a eu quelques années, c'était plus cool. Là maintenant, c'est très très tendu, mais je peux le comprendre. Je ne dis pas qu'ils ont raison et tort. C'est une situation qui est effectivement des contre-performances
faut qu'on doute, tout le monde doute de tout, hein, et y compris les échecs aux États-Unis aussi, hein, je veux dire, qui d'un seul coup disent, bah oui, tiens, c'est tout ce qui valait, plus les déceptions, je veux dire, Prison Break formidable, et d'un seul coup moins bien, donc on se dit, tiens, ils n'ont pas la science infuse. On adorerait que des gens aient la science infuse. Je veux dire, tout le monde adorerait que ça.
Ce qui
et, donc, et donc voilà, hein, donc ça c'est quand même, et pour excuser un peu nos amis des chaînes, que je salue d'ailleurs, hein, bon, parce que c'est pas. Ils en bavent aussi.
Bien sûr. Non, mais c'est une expérience totalement subjective, mais c'est très étrange, parce que quand vous travaillez sur une série, La Reporter, c'était la diffusion en mai 2006, j'ai commencé à travailler dessus en juin 2004, ça fait 2 ans de travail, ce qui est bon, enfin voilà, non, mais c'est juste normal, hein, y a rien de. Mais 2 ans de travail, donc. On arrive au bout de ce long processus avec les brassages, les brainstorming incessants avec les autres auteurs pour trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une série qui est pas simple non plus à écrire ni à peut-être à regarder d'ailleurs, je sais pas. Et au bout de ces 2 années, on a eu la chance en plus d'aller au FIPA d'avoir un prix. Donc ça, c'est évidemment, on est sur un petit nuage. On le montre aux journalistes qui sont plutôt contents. On est très contents. La diffusion, c'est 8 épisodes. Canal les diffuse deux par deux. La diffusion passe comme ça, en un mois. On est à la télé, donc vous ne voyez pas le public dans les yeux. Donc la diffusion, c'est un petit mois au milieu de 2 ans. On vous a déjà recommandé la suite, vous êtes déjà reparti sur la suite. C'est presque anecdotique, je veux dire, dans le ressenti du scénariste à ce moment-là. Et ce qui est étrange, c'est que 6 mois plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est ce mois-là que vous avez vu passer de manière totalement anecdotique, qui en fait est en train de décider de ce que vous êtes en train de faire là maintenant et de la manière dont ça se passe, plus ou moins bien selon. Donc c'est très étrange parce qu'on mesure pas au moment où c'est diffusé, parce que c'est la télé, parce qu'on fait pas de tournée comme au cinéma avec des avant-premières, on compte pas les gens, etc. C'est un phénomène complètement virtuel.
Mais c'est tout le problème de la télé. Tout à l'heure, Alain le disait, on disait qu'on le respecte pas. 2 exemples, vous avez vu La vie est un fleuve tranquille. Donc, quand Madame Groseille est en train de discuter à table avec un verre de vin et qu'il se passe un truc à la télé qui ne lui plaît pas, elle dit « il me fait chier celui-là », elle lui jette un verre de vin au visage. Donc, c'est-à-dire, elle le traite comme rien. Et l'autre jour, j'étais dans un colloque où il y avait Rodolphe Belmer parlant de la télé. Il disait « bah écoutez, quand je rencontre quelqu'un, je dis « qu'est-ce que tu as fait la veille ?» Il dit « oh, j'ai rien fait. »« Ah si, j'ai regardé la télé. » Donc, regarder la télé, c'est ne rien faire. Donc, dans ce contexte-là, bravo aux séries qui deviennent cultes. Parce que c'est un miracle d'arriver à sortir de cette espèce d'indifférence, cette espèce de flot général. Hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça relève quand même d'un certain nombre d'astuces, enfin de techniques, hein, pour essayer de passer, je veux dire, l'indifférence générale, ce qui est le lot de toute la télé.
Barbara Villez, regarder la télévision aux États-Unis, c'est ne rien faire ?
Oh non, absolument pas. D'ailleurs, j'allais réagir à ce que vous venez de dire. Lorsqu'il y avait les Sopranos, les 2 premières années, j'ai des amis qui m'ont dit que dans les rues de Los Angeles, c'était vide parce que les gens se réunissaient chez les amis pour avoir une soirée soprano. Donc il y a un phénomène de communauté, parce que la télévision, on a un sens de communauté qui est très, très curieux, parce que on sait qu'il y a d'autres qui sont chez eux, qui regardent. Donc il y a déjà la conscience des autres téléspectateurs. Mais il y a aussi des phénomènes de partage lorsqu'on se réunit autour d'un épisode de qui a tué J.R. Tout le monde était chez les uns et les autres pour le premier épisode de la série pour savoir qui a tué J.R., qui a tiré sur J.R.
Ouais, FBI aussi, le dernier. Mais on a ces phénomènes-là, par exemple, dans les feuilletons. On a eu ces phénomènes-là dans les feuilletons d'été, par exemple, Dolmen, qui a fait 12 millions en France, c'est énorme, rassemblait, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une des difficultés.
Je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à ça, parce que je ne suis pas très amie de ces bêtes-là. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une tradition aux États-Unis dans la télévision que les auteurs sont très importants et reconnus depuis le début. Et il ne faut pas oublier que lorsque Hollywood a souffert du McCarthyisme, tous les auteurs du cinéma hollywoodien sont allés à New York, qui était le centre de la télévision à l'époque. Et donc certains sous des prête-noms, d'autres sous leur nom même, ont été très contents de travailler pour la télévision, d'écrire pour la télévision, parce qu'ils avaient conscience qu'ils pouvaient faire passer leurs idées
un encore plus grand public à la télévision à cette époque-là. Donc il y avait tout de suite des émissions qui étaient importantes, qui étaient risquées, qui avaient un fond, et des auteurs qui étaient connus. Donc on n'a jamais eu cette, ce que j'appelle la deuxième guerre de 100 ans en France entre la télévision et la culture.
Même, il me semble aux États-Unis, ce n'est pas seulement la télévision. Ça me fait penser à ce que vous racontez à un épisode de Studio 60, la série de Aaron Sorkin, qui a été diffusée sur quelle chaîne, je ne sais pas, ABC NBC. Où c'est exactement le sujet de cette série, puisque le héros, l'un des deux héros, c'est l'auteur. Et justement, il y a un épisode où il est question, si je me souviens bien, d'un vieil auteur de ce show qui a travaillé et qui a été victime de la...
Il ne faut quand même pas oublier que 12 hommes en colère, 12 hommes en colère, tout le monde connaît, on connaît le film. C'était une pièce pour la télévision écrite par Reginald Rose, qui était un grand dramaturge. Donc la télévision a toujours été un lieu. Il y avait une pièce par semaine, toujours, qui était
Playhouse 90.
C'était
des auteurs comme Rotiering, Paddy Chayefsky, Reginald Rose, absolument.
Parce qu'il y avait quelque chose d'important à la télévision. Pourquoi sortir s'il y avait quelque chose chez...
Votre spécialité, c'est les séries judiciaires. Donc, par exemple, les séries judiciaires, elles ont une valeur pédagogique énorme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Très brièvement, il faut commencer avec Perry Mason, qui a permis au public d'acquérir des repères. Ça a permis au public de reconnaître qui fait quoi, où et à quel moment dans la salle d'audience. On a vu que le juge unique avait un rôle très modeste. C'était quelqu'un qui gérait la procédure et qui n'avait pas un rôle aussi important que le juge dans le tribunal français ou dans le droit civil. Peu à peu, ils ont vu des choses de plus en plus complexes. Ils ont vu le droit du point de vue du procureur. Il y avait Night Court, qui était dans les années 80, je crois, une série qui a montré le droit du point de vue du juge. Ensuite, vous aviez des séries Law and Order et L.A. Law. Alors, L.A. Law, c'était quand même très important. C'était un des premiers séries à récit ouvert sur le judiciaire, et c'était les années 80. On a reculé un petit peu après, mais quand même, c'était un moment important. Pourquoi ? Parce que le personnage principal, c'était le cabinet. Et donc, on voyait le travail des avocats ailleurs qu'au tribunal, et qui ne gagnait pas nécessairement toujours, qui négociait, il y a un épisode formidable qui est décrit par Jane Foyer, qui est une académique aux États-Unis qui travaille sur elle est dans un département d'anglais, et elle travaille sur les séries, et elle décrit image par image un début de L.A. Law. On voit l'avocat qui se prépare pour aller au cabinet, et de temps en temps on voit sa Porsche dans le garage, puis on le revoit, puis on voit la scène de sa chambre qui est sur la plage de
Santa Monica.
Et puis c'est la première fois où on ose parler de la vie aisée, de l'argent, des avocats, parce que ça fait partie. Ils sont pas tous des sauveurs, des anges comme Perry Mason, qui avait pas de vie privée, qui avait pas de... On n'osait pas parler de ça. Et peu à peu, on parle de choses extrêmement complexes et très actuelles. Dans la série qui est en France, Tribunal Central, qui est une série de Sidney Lumet, qui est un que tout le monde connaît, qui a un grand passé avec les thèmes judiciaires. Il a fait beaucoup de films là-dessus. Voilà. Il a fait le film, et il a fait le verdict de Ron Newman que tout le monde étudie quand on fait droit et cinéma. Tribunal central, c'est le tribunal de nuit, c'est les comparutions immédiates, un peu comme en France. Et il y a un juge, un soir, il est très fatigué, il a vu une centaine d'affaires dans une même soirée, il essaie toujours de donner la chance aux jeunes. Il fait une grosse erreur, et une jeune policière va être tuée dans la nuit, et c'est à cause de lui. Et pendant des semaines et des semaines, on a un débat sur la responsabilité des juges. Et c'est un débat actuel qui implique tous les juges de l'Europe. Et le public américain est en train de regarder ça. Je me suis posé la question de savoir ce que le public français a retenu de ça. Je n'ai pas encore fait l'étude, j'aimerais bien savoir.
Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça, sauf que le public français, même si ce n'est pas du tout le même système judiciaire, il va se retrouver dans les idées et dans les thèmes qui sont évoqués. Ce n'est pas obligatoirement le système judiciaire qui est important, c'est plus dans les cas qui sont traités, les cas humains. Toute la mécanique judiciaire, à la limite, c'est un ressort dramatique qui fait qu'il y a des effets de manche, qui fait qu'il y a des grands discours, etc. Là où les personnes se retrouvent, c'est quand... Le sujet de l'épisode, c'est le port d'armes, c'est le viol, c'est des choses comme ça. Et là, c'est en effet, et c'est la même d'ailleurs, c'est la même scène de fonctionnement que pour une série policière. Au-delà d'une enquête, au-delà d'une énigme, les scénaristes ont comme schéma une enquête policière, mais en fait, ça leur permet de développer des idées sociales, développer des idées, etc., à travers différents thèmes et différents personnages. Et c'est ça qui accroche les gens, a priori, quoi.
Ça, c'était le coup de génie de Alec McBeal. Qui traite le droit civil et pas le droit pénal. La plupart des séries traitaient du droit pénal parce que c'était le plus simple et il y a beaucoup de suspense dans un procès parce qu'on veut savoir quel serait le verdict. Droit civil, c'est pas du tout la même énergie, hein. Mais on posait des questions au public et je pense que vous avez raison, si on aimait ça, c'est pas uniquement parce qu'elle était anorexique et jolie, on peut
mais
se poser. Non, aussi il y avait des choses qui se passaient en plus dans la partie ouverte des récits, mais c'est parce qu'on se posait la question, on va où avec notre judiciarisation de la société, on peut faire procès pourquoi et jusqu'où et contre qui, et je pense que la France a bénéficié de cette interrogation là parce que ça en vient, les médecins maintenant en France qui prennent des assurances parce qu'ils sont pas protégés par le système, ça c'est un Harlem Shake. Hein.
Est-ce que dans les séries françaises, Jean-Pierre et puis Olivier, vous avez cette volonté dès le départ, éventuellement, d'éduquer les gens sur quelque chose, sur un thème où, je me rappelle quand tu parlais la question des médias, vous vouliez montrer les médias tels qu'ils étaient vraiment et vous avez,
Oui, non, mais ça c'était évidemment, c'était le projet de reporter au départ, oui, c'était de montrer un milieu qu'on avait jusqu'à présent peu ou pas montré à la télévision dans une série et de prendre pour sujet des intrigues, non pas se servir du journalisme comme un prétexte. C'est-à-dire, voilà, c'est un enquêteur, ça pourrait être un flic, il se trouve c'est un journaliste, peu importe, mais de prendre comme sujet d'histoire même les problématiques internes aux médias. Indéniablement, enfin, éduqué, je sais pas, mais en tout cas, moi je me suis éduqué en travaillant sur la série, parce que je connaissais pas très bien ce monde-là, et le but c'est que, en tant que téléspectateur, quand j'ai commencé à travailler dessus, je voyais comme tout le monde le présentateur du journal de 20h et je ne savais pas exactement quel avait été le processus pour arriver jusqu'à cette bouche qui me parlait et qui me donnait des nouvelles. Quelles nouvelles, comment, pourquoi, et le but de la série était de faire comprendre tout le trajet qui menait jusqu'à cette bouche qui parle et qui nous raconte les nouvelles du monde d'un côté, et puis il y a une rédaction de journal en parallèle. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire, oui, enfin un grand oui. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? C'est pas sûr, ça fait partie des discussions qu'on a avec Canal+. Il y aura peut-être un redosage un petit peu pour mettre peut-être plus au premier plan des éléments plus dramatiques ou plus spectaculaires ou plus ouvertement dramatiques et de garder les problématiques des médias mais en les mettant un petit peu au second plan. Voilà.
C'est intéressant comme exemple parce que on parlait tout à l'heure de Plus belle la vie en disant voilà les premiers épisodes ça n'a pas du tout marché et puis au bout d'un moment les gens sont habitués et puis ça a décollé. Enfin oui certes, sauf que tous les premiers épisodes de Plus belle la vie c'était un ennui absolu, parce que c'était grosso modo, ben voilà, c'était quoi l'idée? C'était, on va montrer la vie d'un petit quartier de Marseille. Tiens, qu'est-ce que tu prends ce matin? Un café, toi? Je prends un croissant. Super, je veux dire, 30 minutes, on n'en a rien à battre. nous, sans intérêt. Et au bout d'un moment, en effet, ils ont viré tous les scénaristes, ils ont dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des viols, on va faire des meurtres, on va faire des enquêtes, on va faire des morts, des machins et tout. Et là, comme par miracle, l'audience a décollé. C'est pas un miracle. Mais non, mais c'est simplement, qu'il... en effet, la base est le quartier.
Oui. Mais Marseille. Il faut que ça touche d'une façon ou d'une mais autre. Même voilà. Une comédie, Tutsi. C'est parce que ça me touche. Le ressort, c'est que ça touche. Là, les premiers épisodes qu'on a fait, on fait une série qui s'appelle Camping. On passe dans un camping. On a un problème terrible là sur les derniers épisodes. Parce qu'en fait, ça fait sitcom, parce qu'on fait des anecdotes d'un camping. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive quelque chose à quelqu'un dans le cadre d'un camping, quoi que ce soit. Et moi, j'en tire une leçon pour moi. Moi, j'ai envie de regarder ma femme en disant, tu te rends compte? Enfin, je sais pas. Donc, quoi qu'on a. Mais c'est vrai dans Tutsi, c'est vrai dans les ch'tis. Après, c'est l'art, c'est tout l'art, mais on part toujours, on veut toucher d'une façon ou d'une. Et pourquoi on est touché? Moi, je suis touché par Scofield la première fois que je l'ai vu, parce que je trouve que ce type, il croit à son frère sans lui demander s'il est. Il se dévoue alors qu'il a tout pour lui. Il y a une idée de sacrifice qui, moi, presque bibliquement, me le rapproche de Joseph dans la Bible. C'est-à-dire qu'il, lui, il n'a rien à gagner dans cette affaire et il y va. Forcément, on est touché. Alors après, il y a plein d'épisodes.
Une série sur les prisons, c'est non, pas Oz.
C'est une série sur des hommes. Voilà. C'est une série sur des hommes et humain, trop humain, c'est du Nietzsche. Donc, si on n'est pas dans l'humain, si on touche pas, si j'ai pas de leçon de vie à prendre, ça m'intéresse pas. Ça devient à ce moment-là, effectivement, de la sitcom. Enfin, bon.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi l'histoire humaine dans l'histoire de médias, hein, en l'occurrence.
Mais ce que je veux dire, et The Wire, on a pas la preuve dans aller dans ton sens, en effet, c'est le dosage entre la mécanique, le fond, l'ambiance, le support dans lequel c'est, que ça soit des avocats à Los Angeles, que ça soit des policiers à New York, que ça soit des prisons et que ça soit des journalistes dans une équipe. Bon, ça, c'est la base. Alors, il faut un équilibre entre ce truc-là et entre des histoires humaines qui vont toucher les gens, parce que
pour,
si t'as pas d'histoire
humaine
marche. De truc
pour que ça marche, c'est pas forcément ce qui fait la qualité, puisqu'on a cette série moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est The Wire, où on a évidemment, enfin à mon sens ça crève les yeux, une des meilleures séries depuis, enfin voilà, et puis qui est alors avec des personnages formidables, hein, moi ça me touche énormément, ça me touche de manière émotionnelle, mais effectivement il semblerait qu'on soit pas si nombreux que ça, en tout cas quand je vois les chiffres d'audience aux États-Unis ça me fait vaciller, c'est-à-dire que c'est 800 000 personnes, c'est-à-dire que c'est à
rien.
Peine plus que Reporter, ce qui me
c'est
paraît
rien. Mais si... c'est bien, ça a le mérite d'exister, et c'est une série remarquable, on est d'accord.
Génial.
Est-ce que c'est ça? Oui, j'ai pas tout suivi, je dois avouer. Mais alors, on est. Voilà, The Wire, je me dois avouer.
Mais l'adéquation, c'est une chose étonnante, puisqu'on peut donner l'anecdote maintenant. The Prison Break donc, a été diffusé en France à 20h30 sur M6. Grâce à un incident technique, puisqu'il devait normalement faire L'amour était dans le pré, qui n'était pas prêt. Donc les gars, affolés, plus rien à mettre, et ils mettent Prison Break. Pourquoi ils ne voulaient pas le mettre à 20h30? Parce que ça a tous les critères pour ne pas marcher à 20h30 auprès d'un public féminin, parce qu'il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, enfin, ça a tous les critères. Sauf le critère de la générosité, qui est peut-être féminine aussi. Il y a peut-être des femmes qui sont généreuses, finalement. Donc ça a battu tous les critères. Hein, donc ça a battu tous les critères. Moi, je trouve que c'est une série remarquable. Je ne dis pas que j'aurais eu l'idée de la passer à 20h30, hein, mais je veux dire, il y avait tous les critères pour ne pas la passer, elle est passée. Et donc, elle ne s'appuie pas apparemment sur la féminité, ni sur les prisons, ni quoi que ce soit. Parce qu'elle parle d'autre chose avec intelligence.
C'est ça que je... Tout à fait les mêmes infos que vous, quand tu as
un vrai M6, mais... Le mot de la fin, peut-être, Barbara.
Oui, non, je voulais juste dire que je voulais éclaircir un point. Je ne pense pas que les scénaristes ont l'intention d'éduquer qui que ce soit. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas votre rôle. Le public s'éduque. Et c'est ça qui est la force de la télévision. C'est que c'est un outil... où on peut s'auto-former, et qui est toute éducation. De toute façon, on s'auto-forme. Hein. Si l'école marche bien, c'est parce qu'on apprend, on fait son travail. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on passe un savoir. Si on pouvait le faire, tout le monde l'aurait. Donc, les scénaristes, je crois que ce qu'ils font, ce n'est pas éduquer le public, mais ils les prennent au sérieux.
Oui,
donc, ils posent des questions. Ils posent des questions extrêmement importantes et très sérieusement. Et là, le public a le droit de réfléchir et la possibilité de réfléchir. Pourquoi est-ce que tout le monde a regardé les séries des séries policières sur la criminalité pendant tellement longtemps? On voudrait le fuir. Mais je pense sérieusement que c'est parce qu'on a besoin d'intégrer cette criminalité avec laquelle on vit et de savoir passer outre et de savoir le prendre comme un fait de nos vies. C'est une des raisons, à mon avis, qu'on aime Lost.
C'est pas uniquement parce qu'on joue avec le public, c'est parce qu'on apprend à vivre avec la catastrophe. Et la série est construite de façon à, exactement de la même manière. Il y a un parallèle avec la découverte de la catastrophe. Et on croit qu'on a maîtrisé la situation et on apprend que non, pas du tout. Et puis il y a encore autre chose. Donc on va de rebondissement en rebondissement et on apprend finalement à vivre avec. On vit avec le terrorisme, on vit avec les tsunamis. Qui va nous apprendre à...
Merci. On va conclure. Les questions, bien évidemment, maintenant sont ouvertes à nos invités. Donc voilà, la parole est à vous.
Donc, si vous avez des questions, j'ai le micro.
Bonsoir. Alors, c'est plus une remarque qu'une question. C'est par rapport à ce que vous disiez, monsieur Ducerot, sur le mur qui s'est écroulé, qu'on rénove une fois qu'il s'est écroulé chez TF1 et autres, et sur les changements que ça va apporter. C'est juste, je me pose la question si ça va marcher si on garde les quotas de fiction française.
Oui, c'est pas du tout. Ah oui, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs notre chance.
Non, mais moi, j'ai cru entendre que les quotas de fiction française sont un peu sur la sellette.
Non, je pense pas. Non, franchement, pour deux raisons. D'abord, parce que la fiction française marche mieux que la fiction étrangère. Il y a des moments où la fiction étrangère marche mieux, mais globalement, de toute façon, si vous voulez, une chaîne de télévision, c'est une entreprise, elle a intérêt à pouvoir s'auto-nourrir. Je veux dire, sinon, elle dépend du marché. Et il y aura un jour Orange qui achètera les séries. Ils viennent de perdre le foot. Donc, si vous voulez, ils doivent absolument créer personnellement leurs produits. Donc, de toute façon, ils le feront d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent dire le contraire, mais mécaniquement, ils sont obligés.
Bien au-delà des chiffres des quotas, tout simplement parce que les fictions françaises marchaient jusqu'à l'année dernière.
Et elles vont remarcher. Et encore une fois, demain, rien n'empêche Orange d'acheter. Rien n'empêche Orange d'acheter Dr House. Non, mais puis un jour, là. Donc vous pouvez pas dépendre. Et vous avez vu que progressivement, les chaînes ont baissé aussi leur consommation de cinéma, parce que le cinéma, c'est sur le marché extérieur. Vous devez l'acheter. Donc vous avez forcément un concurrent. La bagarre sur le foot le montre. Donc je n'ai pas d'inquiétude quant à la quantité. Bon, après, on peut se poser la question de notre capacité à relever ce mur. Ça, c'est une question qui est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, j'espère qu'il y a plein de gens dans la salle qui ont envie de s'y mettre, mais...
D'autres questions ?
Oui, bonsoir. Une question générale. Moi, je me posais la question, quel est l'avenir de la diffusion des séries américaines sur les chaînes publiques ou privées hertziennes au vu du téléchargement par Internet. Je vais prendre trois exemples. Dr House qui a été diffusé n'importe comment par TF1, c'est Les Experts qui est diffusé n'importe comment par TF1, et une série que j'ai découverte il y a quelques mois qui s'appelait Friday Night Light, qui a été diffusée à 8 épisodes sur Virgin 12 ou RTL2, voilà, et qui s'est arrêtée. Et ben moi, pour les voir, et ben je les télécharge. Donc voilà.
Bien.
C'est pas bien.
Non, mais je plaisante.
Alors, ils sont pas disponibles en DVD.
Pour répondre à votre question, vous avez sûrement pas tort, sauf que House fait 7 millions de téléspectateurs, même dans le désordre, que Les Experts fait aussi des 10 millions de téléspectateurs sur TF1, même dans le désordre et même mal diffusé, et que Friday Night Live, ça fait moins de 100 000 téléspectateurs sur NRJ12, et c'est pour ça qu'NRJ12 a dit stop, on arrête, on est bien en dessous de ce qu'on peut faire, et on essaie de trouver une autre case pour cette série en laquelle on croit, et il y aura d'ailleurs la seconde saison de Friday Night Live qui sera diffusée sur NRJ12, je tiens l'info d'NRJ12 elle-même. Donc voilà, vous avez tout à fait raison. L'avenir, c'est simplement, voilà, dire le téléchargement, c'est une part très réduite et petite des spectateurs qui vont suivre les séries. Ils les suivront VO sous-titrés. Mettez de la VO sous-titrée sur une grande chaîne nationale, vous avez personne qui regarde. C'est un fait. Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que c'est une constatation. Donc, quelque part, en effet, je pense que les grandes chaînes ne se poseront jamais de questions tant que les experts font du 10 millions de téléspectateurs alors qu'on met l'épisode 6 suivi de l'épisode 15 et qu'on revient à l'épisode 12. Voilà, si vous voulez, la réponse.
Et par ailleurs, il y a un phénomène...
C'est pas bien, mais c'est comme ça.
Par ailleurs, il y a un phénomène tout à fait étrange. Hein. On s'aperçoit qu'en réalité, la télévision est globalement un média de redécouverte. C'est-à-dire qu'on peut revoir une chose qu'on a déjà vue. Et on s'aperçoit que certaines séries qui sont téléchargées sont par ailleurs beaucoup vues. C'est d'ailleurs la seule explication qui permet de comprendre pourquoi la dernière diffusion des Tontons Flingueurs, que tout le monde a vue 50 fois, qui est en vente libre, a encore fait 9 millions. 9 millions, c'est pas... Non, c'est 9 millions de gens qui l'avaient déjà vue. Donc effectivement... En ce qui concerne les succès, les séries cultes, elles sont vues, revues et dans tous les sens. Ça sera fatal aux mauvaises séries, mais de toute façon, tout est fatal aux mauvaises séries.
Non, mais c'est pour répondre simplement un peu plus sérieusement à votre question. Il y a plusieurs publics. Le public qui regarde une série sur une grande chaîne nationale, que ce soit France 2, TF1, M6, ne va pas obligatoirement être tout à fait le même, qui est beaucoup plus pointu, qui veut la découvrir en VOST, qui veut la découvrir le lendemain de ses diffusions aux États-Unis, etc., etc. C'est des publics différents. C'est exactement le même genre de public qui regardait Friends en VOST sur Jimmy et Friends en VF sur France 2. Ce n'était pas le même public, ce n'était pas la même tranche d'âge, ce n'était pas les mêmes personnes, et ainsi de suite. Donc, partant de là, en effet, il n'y a pas une histoire de qualité d'un public de l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a simplement un effet qu'on ne propose pas à l'un la même chose que pour l'autre. Si vous faites l'effort d'acheter un DVD, vous attendez à voir la VO sous-titrée. Si vous regardez une série gratuitement sur une chaîne indienne, la VO sous-titrée, vous n'en avez rien à faire. Enfin, le public... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Il y a simplement plusieurs publics pour les mêmes productions. Ça dépend de la manière dont on les regarde.
D'autres questions ? Tout sujet, hein, si on a évoqué plusieurs...
Bonsoir. Je lisais sur un blog de scénariste la semaine dernière, donc c'est une histoire toute récente. Le scénariste raconte qu'il a rencontré un producteur, qu'il a eu un bon contact, etc. Et que le producteur développe actuellement une série pour TF1 en l'occurrence, et qu'il était intéressé, et qu'ils ont dit après que tu nous écrives un épisode pour cette série. Et jusque-là tout se passait bien, sauf que ensuite le producteur est allé voir la chaîne et que la chaîne lui a dit « Ah mais attends, on l'a jamais travaillé avec lui, donc non, on veut pas qu'il écrive d'épisodes de notre série. » Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensez que... Enfin, cette situation me semble être assez courante quand même. Est-ce que sur ce point-là, les choses aussi peuvent changer, ou est-ce que la fiction française peut plus facilement s'ouvrir à des nouveaux talents à tous les niveaux.
Oui, bon, si vous voulez, ça dépend de la taille du producteur. Je veux dire, moi, encore une fois, je parle de la dernière série, il n'avait jamais rien écrit. Donc, c'est sa première série, il fait 4 épisodes. Donc après, c'est la force de conviction des uns et des autres. Ça, je ne peux pas vous répondre. Ça dépend le poids du producteur. Peut-être qu'ils l'ont dit ça parce qu'ils n'ont pas confiance dans le producteur. Je veux dire, en fait, tout est possible à condition que vous soyez habité par la volonté de faire. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Un producteur, il essaiera de vendre un frigo à un Esquimau qui en a déjà deux. Donc, de toute façon, la tâche est difficile. Alors après, les difficultés sont... Voilà, c'est tout. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Sauf dans le cas présent, je n'ai pas le dossier.
C'est vrai que longtemps, TF1, par exemple, a demandé à pouvoir mettre un auteur maison, ce qu'ils appellent un auteur maison, quelqu'un qui sait écrire des séries.
Mais on peut refuser.
Avec un nouveau. Mais
on peut refuser. Ouais. C'est un problème de rapport de force. J.J. Abrams refuse. Ça dépend. C'est vrai. Ça dépend du producteur et puis surtout de la situation. Aujourd'hui, il y a une vraie demande des chaînes de nouveautés et tout. Donc on n'est pas dans la situation de voilà. Donc la main revient éventuellement à la création, je le crois profondément. Mais BCP, ils l'ont.
Oui, de savoir la saisir.
Bonsoir. J'ai deux questions. La première, plus générale, mais pour rebondir sur un point soulevé par Alain Carazé, au sujet de la version originale et des sous-titres. Je vous ai trouvé un peu péremptoire en disant ça ne marche pas, la version originale sur une chaîne hertzienne.
Ce qui est...
Je pense qu'on est nombreux à le regretter, mais pour d'abord la première question, première sous-question, c'est est-ce qu'on a des chiffres pour établir qu'effectivement ça ne marche pas ? Et deuxième question plus concrète, TF1 se met à la VM sur certains types de diffusion, la DSL il me semble, est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres quelconques pour dire si ce service est utilisé ou pas ?
Grosso modo, vous allez dire que ce n'est pas de la télévision, mais enfin, ça donne quand même une idée. Il a été calculé et vu et entendu que, grosso modo, pour des acheteurs de DVD, films, séries, tout ce que vous voulez, 10% uniquement des acheteurs de DVD passent sur la VO sous-titrée à un moment ou à un autre. 10%. Ça veut dire que vous êtes éditeur de BD, vous allez faire une version sous-titrée, vous allez faire les sous-titres, ça va coûter de l'argent. Vous savez que c'est uniquement 10% des acheteurs DVD, hein, qui vont à un moment y passer. Donc DVD, vous faites un choix d'acheter cinéphile, téléphile, ce que vous voulez. 10%. C'est ridicule, c'est rien. Bon, la télévision, c'est pire. Parce qu'en effet, vous ne faites pas la démarche d'acheter. Vous recevez, vous allumez, on l'a dit, pendant tout le monde, vous allumez, clac, ça, tiens, ça ne me plaît pas, je zappe, pouf. Voilà. Donc, c'est vachement bien que certaines chaînes fassent la VM, c'est ce que moi, j'aimerais le plus, etc. Il faut simplement être lucide à un moment ou à un autre. Si Canal+, par exemple, fait la VM depuis ses débuts, c'est parce qu'ils ont des clients payants et que ces clients payants ont droit donc à un service supplémentaire. À partir du moment où vous recevez des images gratuitement, vous allez au plus grand nombre. C'est terrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, il y a eu un débat il y a quelques mois sur une proposition de... Enfin, une idée, une vague des lois qui serait que les séries américaines devaient, en France, sans rire, hein, être diffusées uniquement en VO, même pas sous-titrées, mais en VO. J'ai dit sans rire. Uniquement en VO. Voilà, c'était une proposition très sérieuse qui avait été faite. Et dans une... Même pas, c'était avant. C'était avant. Ah ben, vous voyez, vous êtes. Hein, pas bien, hein. C'était avant. Et il fallait, c'était quelqu'un qui avait proposé, je ne sais pas si c'était son nom, etc. On l'a reçu dans une émission de radio, la personne, etc. Et en même temps, j'avais demandé à une responsable d'une chaîne de télévision de dire, voilà, si maintenant on vous oblige à diffuser toutes vos séries américaines en VO uniquement, qu'est-ce que vous faites ? La personne de la chaîne de télévision que je ne vais pas citer m'a dit, c'est simple, je n'en diffuse plus. Et à la place, je mets des productions, des sous-mères françaises. C'est clair.
Je constate une amélioration dans le niveau d'anglais des étudiants que j'ai à la fac en ce moment.
Absolument. Mais ce ne sont pas encore eux qui regardent, et on parlait justement d'âge avec France 3, malheureusement, l'âge des gens qui regardent la télévision hertzienne gratuite est assez élevé.
Et puis, il y a techniquement un problème de lecture, enfin, faut quand même le dire. Je veux dire, les sous-titres sont blancs, il y a toujours un choix. D'ailleurs, est-ce qu'on les fait blancs ou noirs ? Alors, c'est plus facile avec le 16/9 quand vous avez le bandeau noir pour les mettre en dessous. Sinon, il y a des moments de non-lisibilité. C'est pas effectivement ce qu'il y a de plus pratique. Donc, les gens, ça les intéresse pas. Et puis, il y a un problème de vitesse. Vous savez que les gens lisent pas forcément la vitesse où ça passe. Hein. Donc, il y a un problème de lecture.
On dit, on le regrette, hein. Simplement, voilà, ce sont malheureusement des faits. Quoi. Moi, j'étais effaré, c'est histoire de 10% sur les DVD. J'ai dit, ah non, tu rigoles. Non, authentique. Bon, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez partir en bagarre, quoi. Je veux dire, au secours. Vous attendez une nouvelle génération. Qui parle bien anglais.
J'ai pas dit bien. Il y a des expressions qui sortent de Friends.
Ceci dit, aux États-Unis.
Ah oui, même le doublage aux États-Unis, hors de question.
Même un doublage canadien.
Vous habitez aux États-Unis,
Ayant habité aux États-Unis, un film, je veux dire, c'est pas possible, on est quatre dans une salle de 500 places. Quoi.
Mais il n'y a pas que les
États-Unis. Chose surprenante à laquelle Alain peut peut-être répondre, c'est à propos de Heroes, parce que quand il parlait en japonais.
Déjà aux États-Unis, ça a été une grosse discussion, quoi. C'est quand Tim Krieg a dit voilà, oui, tout à fait, voilà, moi je veux qu'il y ait des sous-titres japonais quand mon personnage parle japonais. Donc imaginez NBC, comme ça, quoi. Et puis c'est passé parce que Heroes a fait un carton des deux, trois premiers épisodes, série événement, et puis parce que, il faut dire clairement, NBC est dans un état de déliquescence un peu proche de TF1 actuellement, et que donc quelque part ils ont un succès, donc ils s'y raccrochent, tiens, ça marche un peu, on va le garder. Bon, c'est clair. Je peux vous dire, parce que je l'ai vécu, que sur TF1, ils se sont aussi posé largement la question. C'est évidemment une question importante. Je veux dire, attendez, c'est-à-dire, vous, déjà, ils ont fait le choix de la mettre en prime time. Ils le mettent bien exposé. Ils font une méga promo dessus. Et c'est une série en plus dans laquelle il y a un type qui parle japonais et avec des sous-titres. Et c'est une histoire de super-héros dont les Français n'ont rien à foutre. Très clair, parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas la culture comics, etc. Je veux dire, au secours, vous voyez, je veux dire, panique à bord, quoi. Bon, ils l'ont fait quand même, je dis, ok, faisons-le jusqu'au bout. Ils l'ont fait jusqu'au bout avec le résultat que l'on connaît.
Quand Tim Kring est venu à Paris il y a un an et demi, là, il expliquait que la question des sous-titres japonais n'avait jamais été vraiment évoquée avec les responsables du studio et que c'est passé peu à peu.
Oui,
et qu'il n'y a pas eu, ils ne lui ont pas demandé clairement, il n'a pas dit oui ou non, ça s'est fait peu à peu. Et c'est très intéressant comme il a vendu le truc un peu en contrebande et que l'idée est devenue géniale, mais c'était pas gagné.
Deuxième question à Madame Villez. Je suis juriste moi-même, donc vous avez dit tout à l'heure, il me semble, que la perception des séries judiciaires américaines était une chance pour la France, si je me souviens bien, une chance pour la France, notamment on voyait des médecins prendre de plus grosses assurances et ainsi de suite. Je me demandais si justement il fallait pas, si on ne s'acheminait pas, je m'adresse aux scénaristes français ici, vers une... Est-ce que ce n'est pas un effet pervers, et est-ce qu'il ne faut pas, en France, justement, qu'on engage une éducation inverse, qui est de dire le système français est très différent du système américain, et donc, si vous êtes généraliste français, vous n'allez pas forcément vous prendre un procès à des millions d'euros, et donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à l'envers à faire ? Ça commence par demander aux gens de ne pas appeler un juge de TGI votre honneur, et ça se termine en disant on n'a pas forcément les risques qu'on voit à la télé.
Oui, alors premièrement, il y a un mélange d'informations. Je n'ai jamais dit que c'est une chance pour les Français de regarder les séries américaines judiciaires, sauf que c'est du très bon divertissement. C'est de bonnes histoires, c'est de bonne écriture. Je me suis posé la question. Ce qu'ils acquièrent en regardant ces séries, parce qu'ils regardent. Lorsque vous avez un jeune qui se fait arrêter à Dives-sur-Mer et qui demande son coup de téléphone, ça, il n'a eu que de la télévision. Je suis désolée, ce n'est pas en éducation civique, judiciaire et sociale à l'école qu'il a appris ça. Donc, je constate que tout le monde regarde. Je constate qu'il y a une acquisition de repères sur la justice américaine. Et je suis d'accord avec Alain Carazé que ça permet au public français de se poser des questions sur le rôle du droit dans leur vie, sur le système judiciaire, sur beaucoup de questions qui sont liées au droit et à la justice. Maintenant, je suis entièrement d'accord qu'il faut leur donner des images alternatives pour qu'ils apprennent leur système. Et pour ça, j'ai plein d'idées. Hein. J'ai plein d'idées sur comment organiser des émissions à la télévision pour qu'on puisse rectifier le tir. Mais pour ça, il faut que les producteurs et que les chaînes acceptent de le faire.
Là, on a un producteur, un scénariste et une conseillère, donc on peut créer la nouvelle série judiciaire française.
Il n'y en a pas déjà quelques-unes, quand même, en France.
Alors, Barbara Villez.
Alors, avocat et associé, je vais dire encore quelque chose très brièvement et je ne vais pas forcément rendre justice, c'est le cas de le dire, à cet argument. Le procès français et le procès américain, c'est très très différent. C'est différent dans le temps du déroulement du procès, c'est différent dans l'organisation de la parole, etc. Donc c'est très difficile de montrer des moments phares du procès dans une émission française, comme on peut faire aux États-Unis. Parce qu'on peut très bien mettre ensemble des morceaux d'audience et comprendre exactement ce qui se passe. C'est difficile en France. En plus, c'est très lent et très écrit. Votre système judiciaire est un système de codifié, un système de dossier écrit et pas de parole. On dit d'ailleurs que la justice américaine et anglaise, c'est accusatoire. Donc ce qui se passe, c'est une bataille, une joute verbale entre les parties. C'est mené par les avocats. Donc il y a beaucoup plus de suspense, c'est plus dramatique, plus théâtral, etc. C'est difficile de rendre justice à la justice française hein, dans ces séries-là. Et l'avocat et associé, pour cette raison, j'espère que c'est pour cette raison, ne montre pas beaucoup de scènes au tribunal. Voilà. Il y a aussi probablement des problèmes de décor et de permission. Mais je sais que moi, j'ai pu filmer au tribunal, donc j'imagine qu'ils peuvent le faire aussi. Ce que je trouve dommage dans les séries judiciaire française qu'on voit, c'est que premièrement, il y a un parti pris contre la justice. Je suis désolée, ça me perturbe. parce que tout n'est pas mauvais. Il y a tout l'imaginaire national qui sort. Vous avez beaucoup de méfiance contre vos avocats. Il y a une tradition de méfiance qui sort dans ces séries. L'avocat américain, on s'en moque beaucoup, mais tout le monde en a un. Donc, c'est la première personne qu'on va voir, comme le médecin. On peut se plaindre, on se plaint beaucoup de l'hôpital, mais on a confiance, on sait qu'on en a besoin. Donc, on est fasciné par ces gens-là. Et tout ces... J'étais assez rapide, mais tout ça fait qu'il faudrait traiter la justice française autrement dans les séries. Et ce n'est pas le fait d'avoir Boulevard du Palais, où on voit un procureur qui fait son travail avec le policier et on voit très très peu de ce qu'elle fait. Engrenage a donné quelques bribes. Il y avait un début. Maintenant, c'est une série policière.
Oui, sauf que dans Engrenage, l'avocate est quand même la pire des ordures, quoi, selon très clair.
En fait, c'est français.
Voilà, exactement. Pour aller dans votre sens.
En fait, c'est dans les documentaires. Hein, par contre, il y a eu des documentaires réellement sur le terrain, au tribunal de Valenciennes, enfin des grandes séries, surtout France 3, hein, où là, bon, effectivement, ils prennent le temps du procès, ou MC, non, c'est France 3, je crois, ils avaient fait une longue série. Donc, dans les séries documentaires, il y a des choses.
Mais ça, il y a quand même un petit problème avec les documentaires. Je trouve que les Français font de très bons documentaires sur la justice. Et après que Perben a demandé plus de télévision sur la justice, il y a eu plus d'efforts, et de très bons efforts. Mais il ne faut pas oublier que le public qui a besoin de savoir comment la justice française fonctionne ne va pas voir un documentaire. Qui regarde les documentaires, c'est les gens qui sont déjà intéressés par le sujet. La fiction, on ne va pas voir Tribunal central parce qu'on s'intéresse au problème des juges. On va voir Tribunal central parce qu'il y a de bons acteurs, parce que c'est une bonne histoire, parce que c'est bien filmé. À Les McBeal, il y a les couleurs qui attirent les gens. Et finalement, on capte le public, il reste et il commence à se poser des questions. Donc,
d'autres questions? Oui. Le micro arrive.
On est en train de parler de tout ce qui est la pédagogie des séries télé, ce qu'elle apporte. À la base, c'est pas l'idée, ni pour la personne qui diffuse, ni pour la personne qui regarde. Et je veux juste dire que on accuse, par exemple, les séries américaines autour de la justice, de diffuser, enfin, de véhiculer vraiment, bah, c'est les États-Unis, ça se passe comme ça. Du coup, vous, en France, vous vous trompez, vous pensez que c'est la même chose. Mais, enfin, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas comme l'école où on va apprendre quelque chose. C'est nous qui nous accaparons la chose. Donc, enfin, c'est juste pour dire que vous, diffuseurs et vous, scénaristes, vous ne faites pas pour, enfin, peut-être pour véhiculer une idée que vous avez envie, mais c'est pas le but premier. Donc, je trouve juste le débat sur tout l'aspect pédagogique un peu... est-ce qu'il a vraiment un sens, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, vous n'êtes pas là pour faire de la pédagogie.
Moi, j'ai été très touché par ce que vous disiez. Je trouve au contraire, on fait de la pédagogie sans le savoir, et pas sans le vouloir.
Mais c'est le,
parce
c'est
que il y a en chacun un professionnel qui se bat, un prosélyte. Je suis désolé, on a envie d'exprimer des choses. Alors ça va s'appeler pédagogie. Je crois que sans le savoir, c'est vrai que cette dimension-là existe. D'ailleurs, tout le monde a cité lui son adolescence. On a été marqué. Donc si on a été marqué, c'est bien la fonction pédagogique, la fonction d'apprendre et de retenir a été forte. Et les séries nous marquent. On pourrait passer des soirées plus que. Et alors ce qui est fort et à la limite est pervers aussi dans la télévision, c'est que ça se fait sans s'en apercevoir. Ça n'est pas ici école. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on doit être encore plus vigilant.
Plutôt que de parler de pédagogie, il y a la question de, enfin en tout cas sur l'expérience de reporter, qui était ma première expérience de scénariste, la chose principale que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en histoire des questions et non pas de mettre en histoire des réponses. Les séries que j'aime, enfin en tout cas celles que j'ai citées tout à l'heure, je ne vais pas la reciter, mais et ce qu'on peut essayer de faire, c'est de donner une vision de mécanisme, de faire une sorte de constat, éventuellement, de montrer les questions que pose la situation, le dispositif tel qu'il est, que ce soit la justice, les médias ou autre chose, mais enfin, en tout cas en ce qui me concerne, en aucun cas d'apporter des réponses ou des jugements sur ce qu'il faut en penser. Après, c'est le spectateur qui prend le relais.
Voilà, mais c'est ça que je veux dire en fait. C'est que les intentions sont les vôtres, mais c'est le récepteur qui va faire l'influence. Oui, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre qui va regarder Reporter, il ne va pas du tout.
Bien sûr, la même mais le but est aussi de permettre ça. C'est-à-dire,
cette rencontre.
C'est ça. Je veux dire, l'idée n'est pas de donner une direction dans Reporter, c'est justement d'essayer de nuancer et de garder des portes ouvertes. Ce qui n'a pas toujours été forcément le cas, je pense que ça fait partie, je ne parle pas là de Reporter hein, en général, je pense que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une certaine maturité de la narration et des séries, que ce soit en France ou aux États-Unis.
C'est exactement la même chose. Pendant des années, des séries ont tenté d'imposer, enfin, à travers un scénario, on tente d'imposer une idée. Lui, c'est pas bien, ce qu'il fait, c'est mal. L'autre, le flic, ce qu'il fait, c'est bien. Je ne voulais pas la citer, mais j'ai compris. Voilà. Petit à petit, il y a une espèce de maturité parce que le public a suivi. Dans la plupart des séries qui sont citées, dans d'autres que je peux citer aussi, The Practice, etc., on n'est pas là pour imposer une idée, lui c'est bien, elle c'est mal, etc. On est là pour proposer à travers une histoire, à travers un vécu, à travers des rebondissements, une vision des choses. Généralement, d'ailleurs, les personnages sont là assez finement pour dire moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, moi je pense que t'as raison, moi je pense que t'as tort, d'où les discussions dans la ville, dans The Practice, etc. etc. Ils sont là pour refléter les différents avis de ceux qui regardent. Et de créer donc un conflit, parce que toute série, toute histoire dramatique repose généralement sur un conflit. Et après, à la fin, c'est pas généralement machin raison, machin tort, c'est bah, finalement c'est un petit peu de chacun et le spectateur se fait son opinion. Voilà. Et ça, en effet, il y a eu une évolution de ça tout à fait normale face à une époque dans laquelle on ne se posait pas la question. Les rues de San Francisco, les flics sont les gentils, les méchants ils sont obligatoirement black, ils disent de la drogue, machin, voilà, ils sont méchants, point barre. Et on ne se pose pas la question. Cette époque-là est évidemment un peu révolue. Maintenant, on refait les rues de San Francisco à notre époque, tout le monde se fend la pêche, il n'y croit pas une seule seconde. Maintenant, c'est plutôt The Shield, si vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est là aussi que, enfin bon, ça fait une autre discussion par rapport au cinéma, Alain, c'est qu'à l'époque des rues de San Francisco, il y avait French Connection, et qui disait plutôt l'inverse. Enfin, voilà, donc, effectivement, je pense qu'il y a eu une sorte de convergence et qu'aujourd'hui, les séries ont le même degré d'exigence de comment appeler ça, enfin que le cinéma a toujours et a pu avoir. Oui, oui, mais ça a mis un certain temps, effectivement.
Ça a mis un certain temps et ça a évolué. Un producteur disait qu'à une époque, à une période, les séries télé, c'était cheap aux États-Unis. Je pense que c'était même cheap. Il fallait que ça soit efficace, il fallait que les gens reviennent. Donc, il fallait pas, on partit du principe qu'il ne fallait pas trop leur poser de questions, leur demander des trucs, il fallait que ça soit assez linéaire, etc. Alors que le cinéma, lui, de son côté, par contre, c'était quelque chose de plus rond, de plus complexe, de plus différent. Et puis, petit à petit, c'est les séries qui sont devenues de plus en plus personnalisées, le cinéma qui est devenu de plus en plus blockbusterisé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est passé dans l'autre sens. Et maintenant, c'est plus à la télévision que des idées plus complexes, des personnages plus fins peuvent passer. Mais évidemment, pour arriver à Sipowicz dans NYPD Blue, il a fallu des années.
Juste pour rebondir là-dessus, à cause de l'organisation de la télévision, on a plus de temps. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup plus de temps, donc on peut développer des idées beaucoup plus complexes et longues à...
Oui, juste pour rebondir là-dessus, donc là vous parlez des séries américaines en l'occurrence, donc quand est-ce qu'on va vivre cette mutation réellement en France? Parce qu'on parle tous donc de ce changement à venir, de doser, de prendre des risques, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, que ce soit les producteurs, les chaînes de télévision, on reste quand même frileux. Donc non, après...
je suis pas d'accord avec vous, et c'est moi qui le dis. Oui.
Bah, un petit peu quand même, parce que même s'il y a une volonté de la part des producteurs voilà, de créer des nouvelles choses...
Non, comme vous l'avez très bien dit, maintenant, alors ça c'est... ma vision des choses reflétée à travers plein de réunions, conférences auxquelles j'ai pu assister, plus ou moins engageantes, quelquefois plus ou moins bien, c'est que quelque part, il n'y a pas le choix. L'année dernière, ce sont les séries américaines qui ont été pratiquement toutes aux 100 positions des programmes les plus vus à la télévision française, et pas les séries françaises, il y en avait 12. Donc tout le monde se pose des questions depuis à peu près déjà 2-3 ans, parce que les séries américaines, on ne l'a pas abordé. Avant, elles étaient toujours aussi bonnes, mais maintenant, elles sont en prime time, d'un seul coup. Je veux dire, voilà. Bon, c'est la seule différence, c'est qu'on parlait tout à l'heure de chaîne leader. Le chaîne leader décide de mettre des séries américaines fortes en prime time, et d'un seul coup, toutes les séries françaises qui ronronnaient, qui étaient sur un truc, ça marche, pourquoi changer, se prennent un méga coup de vieux d'un seul coup. Les séries américaines sont devenues bonnes. Simplement, d'un seul coup, on les a mieux exposées. C'est ça la différence.
Donc maintenant, en effet, c'est le champ court-tour. C'est quelque part, comme vous l'avez très bien dit, c'est voilà, il faut que ça change, parce que sinon, il ne va y avoir que
mais
des séries.
Il y a cette volonté de changer.
C'est en train.
C'est en train. Mais
et si vous regardez un peu les programmes, il y a de plus en plus de choses. Ah ben, mais c'est long, parce que justement, Olivier l'a dit, lui, il a 2 ans pour faire un reportage. Ouais, peu de gens. Donc voilà, si vous regardez bien vos programmes, de plus en plus, vous avez une petite série sur France 3, c'était oublié. Un truc comme ça, par hasard. Ah, tiens, c'est différent des autres. Vous avez d'un seul coup sur France 2, un truc qui s'appelle Sur le fil. Ah, bah tiens,
vous faites pas, différent fait pas ça.
Par exemple, ce jeu moins. Enfin, bon, c'était une tentative. Oui, petit à petit, il y a des tentatives qui marchent pas, mais de plus en plus. Un David Noland qui aurait été inconcevable il y a encore 10 ans. Donc, voilà. Donc, alors, en effet, c'est pas grand-chose face à l'amoncellement et la quantité incroyable de séries américaines de qualité, ou même britanniques. Mais les mecs se posent des questions et tentent des choses avec plus ou moins de succès.
Et puis, enfin, je veux dire, c'est pas aussi, c'est pas uniquement une question de, ça se décide pas, ça se décrète pas du jour au lendemain. Je veux dire, c'est pas une question de décision de chaîne ou même de producteur. Il y a une tradition, enfin, je veux dire, quand on voit la série américaine et la perfection, enfin, la perfection c'est peut-être un mot un peu fort, mais bon, moi qui fais quand même un peu attention à ça par le métier. On sent bien qu'il y a des couches de sédimentation de dizaines voire de centaines d'années presque, non, je veux dire sur qu'est-ce que c'est que raconter une histoire et qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, c'est-à-dire l'entertainment, c'est-à-dire c'est pas plus ou moins noble de divertir les gens que de faire de l'art. Et ça, c'est, je veux dire, c'est ce qui est le noyau, c'est ce qui est au cœur des grandes séries américaines. On pourrait faire évidemment des nuances à l'intérieur de ça, mais ça n'a jamais été le cas de la même manière en France. Donc le temps que les auteurs, les réalisateurs on apprenne, si tant est qu'on arrive un jour à voir ça, parce qu'après tout on pourrait aussi se dire que c'est presque ancré dans l'esprit d'une culture. Voilà. Aujourd'hui.
En fait, ma question, c'était juste. Enfin, moi, je voulais juste savoir, à votre avis, qui va faire le premier pas, en quelque sorte, parce que.
Et je pense pas qu'il y aura un premier pas qui va être spectaculairement.
Vous pensez que ça va venir petit à petit, progressivement.
Ça a déjà commencé. Et c'est
parce que la réflexion, elle est là. Je suis bien d'accord. La réflexion, elle est là. Mais il y a encore des choses qui se contredisent et.
C'est-à-dire.
Bah, je sais pas, par exemple, André Béraud de TF1 va dire il y a trop de séries policières, mais à côté de ça, on va quand même commander de nouvelles salles de RIS, etc. Donc, pareil, on veut de la nouveauté, on veut du risque, et en même temps, quand il y a un héros qui est un petit peu anti-héros, un peu trop noir, on dit oulala. Là là,
ça, c'est Police District, hein, voilà. C'est l'histoire de Police District, donc je suis très sensible à ce que vous dites.
Donc voilà, donc je voulais
on peut pas parler.
Moi, ce que je voulais voir, c'était juste un petit peu vous, cette mutation qui s'amorce, je voulais juste un petit peu savoir comment vous la voyez donc, dans les prochaines années, je sais pas, enfin, comment vous pensez que ça va se passer globalement.
Moi, je pense que c'est inéductable. Je veux dire, le phénomène de RIS est tout simple, c'est que d'un seul coup, la nouveauté, enfin, comme tu le dis très bien, est complexe. Donc, ils en ont pas assez. Donc, ils disent, on continue. Nous, ils nous ont commandé Brigade Navarro, alors qu'il fallait pas le commander. Je le dis, c'est pas bon. Mais bon, à un moment donné, donc, il va falloir rattraper parce que la télévision, c'est un moloch. Tous les jours, il se passe 24 heures multipliées par le nombre. C'est des quantités astronomiques. Donc de toute façon, il faut alimenter. Donc quand ils voient qu'ils ne sont pas prêts, ils recommandent des choses. Et des séries ne marchent pas sur France 2, on les continue quand même. Parce qu'on n'a pas la nouvelle. Donc de toute façon, effectivement, on a besoin d'un souffle de création énorme venant de partout. Il t'apprendre.
Mais ça ne changera pas du jour au lendemain.
Non, non.
On va supprimer plein de séries ceci, remplacer par d'autres.
Non,
ça ne va pas être aussi
automatique. Ça se fera progressivement. Et puis dans 10 ans, on fera un colloque ici. Et puis on dira, bon, vous rendez compte, on s'en souviendra. Caradère, à l'époque, il l'avait dit. Mais parce que c'est tous les jours qu'il faut donner.
Soyons optimistes, on a déjà fait un peu le chemin depuis Château-Vallon.
Non, mais très bien. En fait, c'est juste que je ne sais pas si vous avez remarqué, une des premières choses que vous avez dites, c'est 95. Vous avez parlé de séries. En plus, c'est pas vrai, parce que, vous le savez très bien, avant 95, il y a eu plein de choses qui sont notables que vous pourriez énumérer très bien. Et voilà. C'est juste pour dire que vous avez repéré des petits pas. Et là, vous avez parlé d'une année, vous avez parlé de plusieurs productions qui sont sorties en même temps, qui ont été. Voilà, le voile qui se déchire.
C'est l'américaine, hein.
Oui, tout à fait. Le voile qui se déchire. Et je dis juste que vous parlez de premier pas. Il y a eu Reporter, il y a eu H Sensible, il y a eu Sur le Fil. Ok, ça a été remarqué. On en a parlé, que, enfin, les critiques en ont parlé en bien. Ça a été un petit peu regardé, pas tant que ça. Je dis juste que moi, je pense que ce sera exactement pareil en France. Il y a un moment, on s'y prépare parce que les gens commencent à regarder d'une façon intellectuelle et même passionnée, populaire, les séries. Et je pense qu'il va y avoir un moment de voile qui se déchire et il va falloir se remuer. Et tout le monde va se mettre là en disant, bon, alors on va tous être obligés de faire la qualité. Il va falloir qu'on remette de côté nos choses un peu moins bien.
C'est une question qui se pose depuis 2-3 ans.
Mais on ne peut pas dire que ça soit enclenché. Enfin, attendez,
il y a quand même des phénomènes, je crois qu'on peut pas. Il y a aussi des problèmes d'hommes. Il y a quand même le directeur de la plus grande chaîne qui a démissionné. Enfin, je veux dire, il se passe des choses. Il n'a pas démissionné parce que ça marchait bien. Non, mais par ailleurs, il y a effectivement un phénomène qui est très embêtant pour tout le monde, c'est que France 2, France 3 est bloqué, et que moi j'adore Maupassant et tout, mais que de dire que la télé ne peut être que ça, fait qu'effectivement ne viendra pas de là ce mouvement, et que donc il n'y a que TF1 et M6 qui peuvent être porteurs d'un changement, et c'est pas assez en quantité, hein, parce qu'il faut de la chute, parce que les Américains, Caradel le sait beaucoup mieux, il doit y avoir une chute énorme, ce qu'on voit c'est le meilleur.
Ce qu'on voit, c'est une partie, quoi. Oui. C'est pas le meilleur, hein. On a besoin de chiffres, pas citer les titres.
Voilà, c'est parce qu'il y a eu PJ sur la 2. Enfin, on a besoin de masse. Or là, on manque de masse à cause des problèmes de France 2, France 3. Mais encore une fois, on a vécu déjà ce changement. Encore une fois, le directeur de la plus grosse chaîne a démissionné. C'est donc bien que ça n'allait pas si bien que ça. Donc il y a des signes extérieurs d'une reprise en main, enfin d'une volonté au moins.
Directeur de cette grosse chaîne qui lui-même disait on arrête les 90 minutes, il faut aller dans une autre direction, il faut rajeunir les choses, il faut lancer des séries dans lesquelles il n'y a pas simplement un héros, mais des personnages multiples, chorales, etc. Et étant donné qu'on doit faire vite, on va reprendre des séries américaines et les dupliquer, etc. Enfin voilà.
Il a tenté
de remuer le truc. J'ai absolument de votre avis. Donc. En effet, ça bouge. Moi, pour revenir simplement sur ce truc, dans différents colloques, je suis absolument estomaqué par le fait que moi, je trouve qu'il faut que ça bouge et que c'est urgentissime et qu'on reste quand même un peu, quelquefois, englué en France dans des problèmes corporatistes monstrueux. J'ai vécu 1 heure et demie de discussion sur le fait qu'il fallait-il. Il faut absolument mettre le nom du scénariste dans les programmes télé. Mais, 1 heure et demie.
De toute façon, il y a cette volonté. Moi, ma mère est allée voir son médecin et elle est revenue, elle m'a dit « Je vais changer de médecin ». Je dis « Pourquoi ?» Parce qu'elle trouve que je ne suis pas malade. Parce qu'en fait, elle trouvait formidable d'être malade. Donc on est aussi, je suis d'accord, on fait des colloques où les mecs disent « Ça va mal » et tout ça. Ouais. Attends, si on pouvait dire « Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux ?» Il y a une auto qu'on se complaît à dire « Ça va mal, les Américains c'est géniaux, on en prend plein la tête ». Et alors on est exactement comme les marins, c'est-à-dire il n'y a plus de poissons, il y a des vagues, c'est terrible, mais de toute façon il va bien falloir qu'on sorte les bateaux, alors de toute façon on sortira les bateaux, hein, donc ça, mais tout le monde va devoir sortir les bateaux.
Et puis peut-être qu'on oublie une question, c'est souvent on oublie de rappeler un petit peu l'histoire, mais on parlait de Château-Vallon, mais avant Château-Vallon il y a eu des choses très culottées à la télévision française. Et donc il y a eu une période,
il y a des nouvelles aventures de Vidocq, voilà.
et on a eu notre Tudor.
Il y a des cycles en fait.
On a eu notre Tudor, les rois maudits. Voilà.
Donc c'est qu'un nouveau cycle qui est en train de commencer, je pense.
Nous allons prendre une dernière question.
Internet bonne. Hein.
Bonsoir.
Vous sentez la pression là.
Je m'adresse surtout aux producteurs, je pense. Je me demandais est-ce que quand on analyse un peu l'évolution de l'histoire de la télé américaine, on peut voir que le développement du câble a joué un rôle extrêmement important, notamment dans sa concurrence. Est-ce qu'on peut en attendre on peut voir notre salut aussi dans l'arrivée de la TNT. Est-ce que par exemple dans 1, 2 ou 3 ans on peut voir des programmes de qualité? On peut voir déjà des shortcoms qui arrivent qui sont vraiment de bonne qualité. Est-ce que des grandes séries ou 42 ou 52 minutes peuvent arriver vraiment de très bonne qualité?
Je vais vous laisser la parole, mais j'aurais adoré que Canal Jimmy fasse ses propres séries. Hein. Ça vous suffit comme réponse?
Pour l'instant, il y a un problème de faut pas oublier qu'aux États-Unis, même une petite chaîne du câble fait 10 millions, hein, ce qui est loin d'être le cas des autres séries. Par contre, ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est réellement le financement par plusieurs opérateurs, hein. Moi, je suis en négociation avec Orange, contenu d'Orange couplé avec une chaîne. Donc voilà, si vous voulez, on est en train de voir apparaître, alors avec éventuellement une utilisation différente sur différents supports. Ça, effectivement, disons, la globalité des médias, ça c'est nouveau. Ça arrive. Effectivement, on trouvera des séries qui passeront peut-être en premium sur une chaîne et puis après sur une grande, enfin, bien sûr, en circulation.
Donc merci.
Pas suffisamment pour que la petite chaîne câble ou TNT ait suffisamment de pouvoir, de moyens et de pourcentage dans la production de la série pour dire je veux ça.
Énergie 12 en ce moment fait le tour des maisons de production en disant on veut lancer quelque chose. Le modèle économique, c'est l'ex-modèle AB d'Hélène et les garçons. Donc ils vont pas très haut dans leur envie. Quoi.
Ouais. Enfin, merci donc pour cette soirée. Donc, Barbara Villas, si vous êtes intéressée sur les questions de justice, elle a écrit un remarquable livre au PUF, une série télévision de la justice, c'est ça ? Alain Carazé, vous pouvez le lire sur son blog. Il a aussi un livre qui rappelle très très bien toute l'histoire des séries télévisées, qui est sorti chez Hachette, je crois. Voilà. Olivier Cohn, la série Reporter, elle est disponible en DVD. Allez-y. Et puis les productions, on attend.
Samedi.
Et
surtout le DVD pour ceux qui n'ont pas vu de la Dame Blanche qui sort le 21 juillet.
Et puis tant qu'on est dans la pub, France Culture à 22h30, du 22 juillet au 22 août, 30 minutes tous les soirs pour raconter l'histoire de la série américaine. Et les soirées premium, la pub.
Les soirées premium, ça sera dès fin septembre pour la prochaine, avec une thématique qui va totalement changer, puisque ça sera une question, plus beau le soap, une spéciale soap opéra. Non, mais rigolez pas, c'est super.
Génial, on va parler dynastie Falcon Crest, franchement.
Entre autres, Alain. Tu auras une place de choix. Donc, dès fin septembre, vous avez réservé votre date. Il y aura toutes les infos sur le site très rapidement. Réservez également début novembre, avec une soirée spéciale, et en fait une journée spéciale autour des élections américaines, avec une journée universitaire sur Aaron Sorkin. Séverine est en train de nous préparer tout ça. Ça va être toute une journée avec des universitaires qui interviendront autour de l'œuvre d'Aaron Sorkin, des œuvres d'Aaron Sorkin. Et ensuite, une soirée spéciale autour de la vision de l'exécutif américain à travers leur série télé. Et enfin, début décembre, une leçon de réalisation par un grand réalisateur de séries télévisées françaises. Je voulais chercher le nom. Mais encore une fois, toutes les infos seront sur le site. N'hésitez pas à y aller régulièrement. Une dernière chose, il y a une urne au premier, juste en haut des escaliers. Si vous avez apprécié, nous on appréciera beaucoup une petite contribution. Voilà, tout simplement. Et merci et à la rentrée. À très bientôt.